chacun des intervenants viendra à la tribune parler, lire ses notes, et ensuite, Benoît Peters, ici même, au moment des pauses et au moment des discussions, appellera les binômes ou les trios qui auront présenté leur communication pour un temps de discussion entre nous et avec la salle. Nous avons décidé de procéder ainsi. Je vous rappelle qu'il serait bon que vous coupiez vos machines téléphoniques parce que nous sommes filmés et diffusés en temps réel sur quatre sites, Diacritique, le site de Jean-Philippe Toussaint, sur la page Facebook du Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, et le quatrième site, c'est l'émotion, il y a la librairie Mola. Un mot concernant la librairie Mola, je tiens à dire que ces journées aurait été impossible à organiser et à tenir sans l'engagement de Denis Mola et de son équipe. Donc je tiens à les remercier d'entrée. Et au fil des jours, là aussi, un ton un petit peu différent, au fil des jours, nous aurons l'occasion de remercier les universités, les institutions qui nous ont aidés et sans lesquelles nous n'aurions pas pu réunir ce colloque. Mais nous n'allons pas prendre 10 minutes pour citer l'ensemble des institutions et des personnalités qui nous ont aidés. Bien, il m'incombe non pas de conclure le colloque, non pas de le baliser, non pas de vous fournir une grille de lecture, mais tout simplement d'ouvrir nos travaux. Et j'ai quelques mots à vous confier. Ces mots, nous pourrions peut-être les titrer tout simplement « La voix humaine abandonnée » de Jean-Philippe Toussaint. Avec ce colloque international que nous avons décidé de réunir autour du thème « Lire, voir, penser l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint » et ce qui sera en jeu, c'est l'appréhension critique d'une production dont on peut estimer qu'elle est celle d'un écrivain qui, demain, sera considéré comme un auteur majeur par les universitaires, les professionnels de la lecture et de l'interprétation des textes et le public. Et ce, parce qu'un grand auteur, ce n'est pas seulement ni forcément un auteur physiquement plus grand que son éditeur. C'est un écrivain qui, en vue de construire une œuvre, se confronte à la gageure d'un usage poétique de la langue et du travail des formes, et qui s'y applique en toute conscience. Je suis loin d'être le premier à le dire, nous sommes en effet nombreux à l'affirmer, sans chercher d'ailleurs à parler à sa place, Jean-Philippe Toussaint sait qu'il vient, entre guillemets, après Samuel Beckett, dont pour lui la lecture n'a pas été une simple rencontre, mais un choc. Dans cette veine, j'ajouterai qu'il est aussi celui qui assume de tracer sa voie après Alain Robbe-Grillet, après Marguerite Duras et après Claude Simon, ce qui doit nous inciter, selon moi, à interroger son rapport à la langue et sa relation au monde et à l'histoire. Ce faisant, je me garderai de poser, même implicitement, que cette semaine, nous allons contribuer à cerner la vérité des textes de Toussaint. D'abord parce que des vérités, pas même sur Marie, ses livres n'en délivrent. Et que, dans ses ouvrages, l'écrivain n'y est pas, au sens où d'ordinaire, on considère qu'un écrivain y est ou pas, avec son vécu, ses chagrins et ses espoirs. De fait, si nous cédions à la facilité de lire Toussaint à la recherche de son parcours biographique, nous prendrions le risque de nous fourvoyer. Dès la salle de bain, il nous a prévenus en nous assignant une place qui n'est pas si éloignée de celle qu'il a attribuée dans la diégèse au médecin du personnage narrateur. Aussi, poserai-je que si dans ces textes Toussaint ne se raconte pas, il s'y parle néanmoins, et que sa parole fait lever en moi le sentiment que son écriture opère en deux mouvements, irréconciliables seulement en apparence, car participant in fine à un procès en variation continue, au sens où la musique use des termes de variation et de mouvement. Ce sont ces linéaments de thèse que je me propose d'exposer ici très brièvement. L'éblouissement éprouvé pour et du fait de Beckett, Toussaint a eu maintes occasions de l'évoquer, et notamment dans L'urgence et la patience, quand il relate comment son imagination s'est emparée d'une phrase de Watt. Au mur, à un clou, tel un pluvier pendant un ravanastron. Pour de cette phrase et de son énigme, celle du ravanastron, engendrait une image qui commençait doucement à naître dans les brumes ouateuses de son esprit et qui restait purement abstraite, par vertige de rythme et de sonorité, cliquetis mental de couleurs et de consonnes, et ce, avant d'interrompre brusquement l'hommage qu'il rendait à son aîné par une pointe. Au cas où nous aurions été un peu lents à comprendre, nous qui l'interpellent alors familièrement, peut-être bien parce qu'il nous regarde de temps à autre comme étant de ses agneaux, c'était de la littérature qu'il nous entretenait et de sa puissance de création. Des ruptures de ton, mais aussi de rythme et de motif, l'œuvre si savamment échafaudée et ciselée de Toussaint en est suffisamment affectée pour qu'on les considère comme une marque de fabrique. Cela étant, si son architecture retient à bien des égards des échecs, sa composition résulte probablement moins d'un plan concerté et prémédité à la Balzac que d'un procès structurant. En l'occurrence, non pas comme dans une partie réellement jouée d'échecs, où l'avantage va à celui qui parvient à calculer et à programmer les mouvements tactiques des pièces sur l'échiquier, mais plutôt à la manière dont on en refait une de partie d'échecs, c'est-à-dire en commentant et en reprenant les trajectoires imprimées au bois préalablement poussées par les deux adversaires. S'il en est bien ainsi, l'inflexion relevée par la critique entre ses premiers livres d'une ironie en quelque sorte blanche et minimale et MMMM, le cycle de Marie, beaucoup plus lyrique et poétique, n'obéit pas à un changement de cap dans son écriture, celle-ci participant toujours d'une économie qui procède par transfert, depuis un absurde proche de celui de Beckett et de son nonsense, vers une dérision conçue sur le mode de la mise en scène, quelquefois burlesque, d'une quête d'une totale inanité, puisque si elle était énoncée au premier degré, cette quête, sans effet de distanciation, elle serait celle de la consolation impossible, mais pourtant espérée, d'un sujet désemparé face à la peine et au désespoir suscité par notre commune finitude. Toutefois, je vous rassure, nul besoin de me mettre en garde contre l'erreur de tirer les livres de Toussaint du côté de la psychologie et de me rappeler l'effet, par exemple, dévastateur d'un Blaise Pascal cité en anglais et malicieusement convoqué dans la salle de bain pour ruiner toute velléité d'interprétation tragique de sa trajectoire littéraire. Chez Toussaint, à l'expression d'une douleur existentielle est substitué le récit des mille et une petites diversions auxquelles il est loisible de s'abandonner malgré leur vacuité pour ne pas sombrer sous l'emprise de Thanatos. J'ajouterai que Toussaint, lequel n'est pas en reste pour estimer que, je le cite, « chaque façon personnelle de concevoir l'écriture est une névrose unique », eh bien, Toussaint n'est pas en reste, et pour dire cela, pour l'affirmer, mais j'ajouterai que Toussaint n'est pas seulement le partisan d'un roman infinitésimaliste. Il est lui-même un écrivain qu'on peut caractériser en lui, prétend ce néologisme, attendu qu'il met en mots une posture, celle d'une désinvolture supposée envers la réalité, alors qu'il s'agit d'une parade pour se préserver du réel et de ce que celui-ci implique d'angoisse quand on bute contre lui, coincé entre l'incongruité d'être advenu à la vie et l'intelligence que l'on peut en avoir, et lorsqu'on s'échine à en esquiver la corne en oscillant entre une quasi-absence à l'histoire et une gravité poétique ourlée d'inquiétude. Voilà pourquoi, m'inspirant d'une de ses remarques, il m'apparaît que depuis 1985, ses livres se distribuent selon une ligne allant de la peinture d'une crise à celle d'une condition. Les personnages, souvent passablement fatigués, las et pusillanimes de Toussaint, s'ils fuient le réel, c'est uniquement parce qu'ils s'efforcent de ne pas s'y fracasser et qu'ils traversent l'existence comme à tâtons, en chasse plus ou moins déterminée d'une protection contre le monde extérieur, d'un abri, d'un refuge, d'une salle de bain. Le scripteur, par le biais de l'instance narrative, lorsqu'elle s'entraperçoit ou s'exhibe dans la trame romanesque, a fortiori quand il endosse les habits de l'essayiste, eh bien, celui-ci semble travaillé par la difficulté de fixer le vivant, à moins d'acquérir la précision du geste et de la froideur du scalpel de l'entomologiste lorsque celui-ci immobilise l'extrémité d'une aiguille dans le corps d'un papillon vivant. Ce n'est par conséquent pas du tout un hasard si Toussaint a été impressionné par le journal de Kafka et ses terribles notations. Toussaint se présente lui-même volontiers comme le romancier de l'oscillation qui, entre systole et diastole, serait consubstantiel à l'étang et qui structurerait et modèlerait son regard et son geste dans une alternance de phrases, de phases, de latence et d'emballement. Mon lapsus est intéressant. Cette dualité inhérente à sa création, redoublant le balancement oxymorique qui agit et défait l'animé et l'inanimé. Dans ces conditions, devant la réticence du réel et son silence obstiné, l'écrivain ne peut que s'entêter et poursuivre et s'en remettre à un usage intransitif de la continuation. Je fais en l'espèce directement allusion à ce que tresse Toussaint à propos de Beckett à la fin de L'urgence et la patience. Cependant, en empruntant en partie mon outillage conceptuel à Claude Simon, il m'apparaît que le projet de Toussaint n'étant pas de reconstituer le monde, mais bien de le restituer au terme d'une plongée dans les profondeurs même de l'écriture en vue de retranscrire tout ce qu'il a auparavant capté à la surface et que sa réussite est de nous offrir des livres dont de nombreuses pages dépassent et débordent ses intentions, lesquelles ont pour assise que les pratiques artistiques s'adossent à une expérience de vie, une expérience intime dont le sens réside davantage dans sa réalisation que dans les œuvres elles-mêmes. Alors que son écriture répond tendanciellement à une poétique de la représentation, subsumant les présences aveugles et invisibles, ce qui a pour conséquence que, d'une part, elle n'est pas sismographique, son écriture, et que, d'autre part, elle est un négatif de la pensée, donc un foyer d'énergie et de matière, ouvrant de l'intérieur des phrases le discours du texte et son agencement esthétique. Si cette approche symptomale ne m'égare pas trop, chers collègues, chers doctorants, chers étudiants, mesdames, messieurs, si cette approche ne m'égare pas trop pour lancer ces journées, je soutiendrai que Jean-Philippe Toussaint, bien que demeurant à la lisière de l'expérimentation, mais s'investissant en revanche entièrement dans la recherche des formes adéquates à sa visée, et tout en se préservant des assauts et de la morsure du réel par une parade, celle de la pensée, eh bien Jean-Philippe Toussaint nous enseigne, des fois à son insu, que l'écriture, quand elle est celle d'une parole humaine et abandonnée, nous aide à sublimer un passage du temps que l'on gagne à ne pas associer à un dispositif dialectique où un se divise en deux de façon antagoniste et exclusive, mais à identifier à un étant, à une natura naturans chère à Spinoza, dont le ressort réside dans une entropie constitutive de tout. Dans le champ littéraire, cette extrême singularité dans laquelle baignent les êtres, les choses, les idées, les émotions et les sensations se cristallise ou cristallise dans une scriptura scripturans, articulant l'étang à son revers de néant, Eros à Thanatos et la clarté aux ténèbres extérieures. Ce diamant noir, l'insigne mérite de Jean-Philippe Toussaint est de le partager avec nous, nous le donnant très fréquemment à lire, à voir et à penser. Je vous remercie.
Je voudrais d'abord remercier Jean-Michel Devesa pour l'idée de ce colloque, pour son organisation et pour m'avoir invité et pouvoir parler ici. Je devrais parler des mécanismes de séduction de Jean-Philippe Toussaint, écrivain. On dit souvent d'un livre ou d'un auteur qu'on l'aime. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on comprend par cet amour? C'est-à-dire par cette relation hypothétique entre l'auteur et son lecteur, entre un certain lecteur et un certain livre. Peut-on prétendre que l'auteur désire séduire son lecteur pour être aimé par ce dernier? Si nous acceptons cette hypothèse, nous pouvons nous lancer dans la description du procédé même de la séduction. Regardons, par exemple, le cas de Jean-Philippe Toussaint. Jean-Philippe Toussaint est un auteur publié partout dans le monde, en France pour les textes sources et dans 36 pays sur 4 continents pour les traductions. Il s'agit d'un auteur hors nom international. Mais est-ce que la réception et la perception de son œuvre en général est la même partout? La réponse ne doit pas attendre. Non, elle ne l'est pas. Elle ne peut pas être identique. Cependant, essayons de voir si elle est au moins comparable. Est-ce qu'il y a partout dans le monde un seul écrivain du nom de Jean-Philippe Toussaint, ou a-t-on affaire à un auteur aux multiples visages? Mais comment le savoir? Examinons quelques questions au préalable pour guider ce raisonnement. Je vous les ai mentionnées ici, je ne vais pas les lire parce que vous pouvez les lire vous-même. Je suis bien consciente des aspects négatifs de ma démarche, qui est peut-être plus précise et exhaustive au début, car elle est soutenue par des données quantitatives. Mais dans son volet qualitatif, cette recherche devient plus vague, plus subjective et en conséquence peut-être moins crédible. Espérons pourtant que les résultats resteront intéressants. Dans quel pays et chez quels éditeurs les livres sont-ils publiés? Je dois d'abord préciser les sources de mon analyse bibliographique. C'était le site de Jean-Philippe Toussaint, la base de données Index Translationum, que j'utilise avec beaucoup de précaution, puis le catalogue WordCat, Amazon, etc. Et je dois citer encore l'aide précieuse des traducteurs qui m'ont donné des réponses à un questionnaire que je mentionnerai encore. Alors, passons aux chiffres. Le plus grand nombre de parutions a été publié en Allemagne, y compris 2 rééditions. Suivent la Chine, le Japon, les États-Unis, les Pays-Bas, tous avec plus de 10 parutions. Entre 3 et 9 titres ont été traduits et publiés dans 16 pays. 16 autres proposent à leur lecteur 2, voire un seul livre de Jean-Philippe Toussaint. Quel est le secret de l'intérêt plus profond des lecteurs et littérature au Japon, aux États-Unis, aux Pays-Bas ou en Chine? Et quelle est la raison d'une telle différence entre ces pays si productifs en traduction et le reste du monde pour lequel l'attention à cet auteur reste plutôt tiède? Évidemment, pour toute tentative d'évaluation de la réception, plusieurs éléments doivent être pris en compte, et en premier lieu, les facteurs économiques. Les chiffres que je présente ici ne montrent que le nombre de tirages, de titres traduits et publiés, et non le tirage et les chiffres de vente. On doit examiner cette problématique sous un autre angle. Je propose d'appeler l'élément suivant l'impact de l'éditeur. Ce facteur englobe la position économique de celui-ci sur le marché, d'un côté la dimension de l'entreprise et sa visibilité sur le marché du livre, et de l'autre côté son renom. Dans de nombreux pays, Jean-Philippe Toussaint est publié par les soins d'éditeurs non seulement éclairés, mais admirateurs inconditionnels de son œuvre. Au Danemark, en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, etc. Souvent, il s'agit d'éditeurs de taille petite ou moyenne en ce qui concerne le chiffre de production. Cela peut aussi signifier qu'ils ont moins de moyens pour accompagner le lancement de produits avec un bon marketing. En revanche, grâce au renom de leur travail éditorial et vu la structure de leur production, ces éditeurs peuvent jouir d'une attention particulière des médias, peut-être même comparable à celle dédiée à de grandes structures commerciales. Pour ne pas oublier qu'on a voulu parler de séduction, nous pouvons conclure que notre auteur a eu assez de charme, puisque de nombreux éditeurs partout dans le monde ont cédé à ses séductions. Mais le jeu n'est pas gagné. Regardons maintenant les médias. Une analyse des critiques publiées dans les médias peut être utile pour définir la réception de l'auteur dans les différentes cultures. Toutefois, il faut avouer qu'en ce qui concerne la critique, son influence sur la réception d'un livre n'est pas univoque. Au lieu d'examiner les qualités et les imperfections du livre donné, les journalistes s'attachent avant tout à mettre en avant le fait de sa parution et par la suite à vanter son excellence. Je veux juste rappeler que de nos jours, le fait de bénéficier de critiques élogieuses ou dithyrambiques ne signifie pas grand-chose. Par contre, ce qui peut jouer le rôle, c'est le fait en soi d'être remarqué par les médias. Ainsi, le nombre élevé des critiques publiées se révèle comme un moyen sûrement plus efficace que leur contenu. Il suffit d'être suivi par les médias les plus prestigieux, télévision comprise. Néanmoins, un autre aspect de la critique est à mentionner. Même si elle est considérée souvent comme l'un des signes incontestables de la réception, il reste difficile de prouver et de mesurer son effet réel sur le lecteur. Il est difficile de juger de sa capacité à influencer le choix de la clientèle des librairies. Fort de ce constat, nous pouvons aller plus loin et évoquer un autre angle de cette problématique, c'est la fonction des blurbs. Ce sont les courtes citations utilisées à des fins promotionnelles. Ainsi, une seule phrase, ou plutôt une sélection de plusieurs citations, accompagne l'ouvrage sur son chemin vers le lecteur. Et ce sont précisément ces citations, ces raccourcis les plus denses et condensés, et souvent absolument sommaires et laconiques, voire vides de sens par leur côté stéréotypé, qui ont la chance d'être remarqués par le plus grand nombre de destinataires. Il est aussi intéressant de regarder les sources non professionnelles entretenues par des amateurs de livres comme Babelio en France ou Goodreads pour les autres pays. Mais revenons vite vers les traducteurs. Les traducteurs ne sont pas forcément des traîtres, comme dit la célèbre citation. De nos jours, ils sont plutôt reconnus comme des passeurs. De plus, les théories récentes leur reconnaissent un rôle en tant qu'élément important dans la consécration de l'œuvre. Ce fait peut bien être illustré par certains détails de la réception de l'œuvre toussaintienne à l'étranger. Je viens de mentionner quelques éditeurs étrangers, admirateurs de l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint, rappelant que certains d'entre eux sont à la fois traducteurs. Björn Bredahl au Danemark ou Joachim Unzelt en Allemagne. S'il est fréquent que le traducteur ne jouisse pas d'une visibilité appropriée et reste dans l'ombre de l'œuvre source, l'exception confirme la règle, vous la voyez. Les bonnes traductions, surtout celles qui ont remporté un prix, contribuent à la réception de l'œuvre source dans le pays cible. Nous pouvons citer, par exemple, le Grand Prix de traduction littéraire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, décerné en 2014 à Marianne Kaas, la traductrice néerlandaise. Puisque l'importance des traducteurs a été mentionnée, résumons les résultats de l'étude réalisée afin d'avoir des données les plus exactes possibles. Au questionnaire élaboré à cette fin et distribué aux 24 traducteurs d'un ou plusieurs ouvrages de Jean-Philippe Toussaint, 11 ont répondu. Je propose de s'arrêter sur les réponses les plus détaillées ou les plus inattendues. La première question était des plus simples. Pourquoi avez-vous traduit un ou plusieurs livres de Jean-Philippe Toussaint? Les réponses ont été très prosaïques ou très intéressantes, parfois même amusantes. Le traducteur italien dit « par loisir » au début pour m'entraîner en français. Le traducteur chinois dit « parce que c'était un rêve de jeunesse, j'ai lu des romans de Toussaint à la fin de mes études et quand j'ai dû chercher un travail, j'ai postulé chez l'éditeur de Toussaint. » Et très vite, je me suis retrouvée rédacteur, correcteur de la traduction en chinois de livres de Toussaint. Parfois, les arguments sont plus professionnels. Par exemple, j'ai découvert l'urgence et la patience quand je me suis préparée pour faire un entretien public avec Jean-Philippe Toussaint. La question suivante, chercher à approfondir ce thème, l'avez-vous découvert vous-même ou s'agissait-il d'une commande de l'éditeur? Dans la plupart des cas, les réponses ne procurent pas de surprise. Le caractère professionnel est majoritaire. Parfois, les études universitaires jouent un rôle. Le travail dans le domaine de l'édition est souvent mentionné comme porteur de découvertes importantes. Sinon, les recommandations des copains sont utiles. Et si on a pour copain un Beckett, le poids de la recommandation est indiscutable. Il s'agit de l'expérience de traducteur allemand. C'est Samuel Beckett qui m'a parlé du premier roman de Jean-Philippe Toussaint, le dernier auteur contemporain, comme il disait, qu'il a lu. L'argument qui mène vers une publication peut même faire sourire. La traductrice estonienne nous a fait part du cas où le format du livre jouait un rôle décisif. Elle dit, je cite, « Je travaille moi-même dans une maison d'édition qui publie de la fiction et aussi des essais sur la littérature qui ont des grandes qualités littéraires, mais qui ne sont pas trop volumineux. On peut s'abonner à la collection et les livres doivent donc passer dans les boîtes aux lettres. L'urgence et la patience correspondent donc idéalement au profil de la collection. » Parfois, des anecdotes plus personnelles peuvent ressortir. Mentionnons à cet égard les paroles du traducteur bulgare qui dit « Un autre traducteur bulgare a traduit Monsieur et je me suis senti un peu frustré et jaloux. Ai-je insisté pour traduire La salle de bain et fuir quelques années plus tard. » Pour ne pas être très longue, je saute la question « Combien de livres ont été publiés ?» Pour en venir à l'autre, enrichi de toutes ces données, il me semblait intéressant de savoir, dans votre pays, le traducteur peut-il proposer des livres à publier? S'agit-il d'un procédé fréquent? Les réponses affirmatives sont les plus nombreuses. Pour les réponses moins convaincantes, on peut se poser la question de savoir si l'expérience, voire la réputation de traducteur ne joue pas un rôle. Souvent, le traducteur doit tenir le rôle d'un diplomate, comme en témoigne la réponse de la traductrice estonienne, encore une fois. Oui, c'est fréquent que les traducteurs proposent des livres, et si on vise bien, évidemment, il faut tenir compte du profil de la maison. Il y a aussi des chances que la proposition soit acceptée. Plus rares sont les réponses à la question suivante. Auriez-vous des données précises concernant les ventes? Les réponses négatives sont les plus courantes, c'est-à-dire les traducteurs ne savent rien de cette problématique. Bonne nouvelle pour la Chine, toujours avide de lire Jean-Philippe Toussaint, qui dit « Le tirage est de 4000 exemplaires en moyenne, et jusqu'à maintenant, les livres sont presque tous épuisés ». En revanche, la traductrice estonienne ou le traducteurs et éditeurs allemands, ils ont des chiffres précis. Et ce qui peut être étonnant, ce sont ces 11 000 exemplaires vendus en Allemagne pour faire l'amour. La thématique de l'amour nous revient. Le traducteur bulgare explique la faiblesse des tirages. Il dit « Malheureusement, je n'ai pas les chiffres exacts, mais les tirages doivent tourner autour de 500 exemplaires, étant donné que les livres de Jean-Philippe Toussaint sont destinés à un public élitiste. » La traductrice néerlandaise a pensé important d'élargir sa réponse. Les livres de Jean-Philippe Toussaint ont toujours eu de critiques littéraires positives dans la presse néerlandaise, mais autant que je sache, il est plutôt question d'un succès d'estime que de vente. pour mieux cerner la position de la littérature française et belge au sein des scènes littéraires à l'étranger, les traducteurs ont été invités à indiquer quels auteurs français sont-ils les plus connus ou les plus publiés dans votre pays d'aujourd'hui, aujourd'hui. La plupart des traducteurs mentionnent Michel Houellebecq, 7 réponses sur 11. Patrick Modiano est cité 3 fois. Nombreux sont ceux qui apparaissent 2 fois. Nothomb, Duras, Carrère, Echenoz, Despentes, Guillaume Musso. Je vais vers la réponse ou bien vers la question suivante. Est-ce que l'écriture et la thématique des livres de Jean-Philippe Toussaint sont d'une certaine manière spécifiques pour vos lecteurs? Si quelques-uns sont prudents dans leur opinion, d'autres traducteurs sont persuadés qu'il est possible d'évoquer un caractère spécifique de la création littéraire de Jean-Philippe Toussaint en présentant son œuvre dans le cadre de la culture cible. Parmi eux, le traducteur Serbre qui dit « Absolument ». D'abord, on n'a pas l'impression que Minuit lui fixe le nombre de pages du futur roman à l'avance. Et puis, j'ose dire que chez lui, l'accent est uniquement sur, sur la littérature. Le traducteur hongrois tient des propos similaires. Il dit « Il est apprécié par des lecteurs intello, surtout par ceux qui aiment la littérature plus ou moins postmoderne ». La réponse taïwanaise est encore plus élogieuse. Elle dit « L'éditrice m'a dit qu'il existait toujours un groupe de lecteurs qui sont fascinés par l'écriture de Jean-Philippe Toussaint ». Le traducteur chinois élargit son point de vue à la perception de l'auteur en général. Il dit « Toussaint reste dans la catégorie du nouveau roman en Chine. Il est souvent cité en même temps que Robespierre, Echenoz, Duras, etc. » Toussaint est connu en Chine par les artistes, par les écrivains, et il est considéré comme un écrivain d'avant-garde. La question suivante. Si en France, Jean-Philippe Toussaint publie un nouveau livre, sera-t-il traduit et publié dans votre pays sans problème, de manière automatique? Les réponses sont très variées. La traductrice chilienne propose une explication. Cela dépend de la thématique du livre. Football est difficilement vendable car de nombreux auteurs latino-américains ont écrit des livres sur le sujet. Made in China aussi. Certains de ces livres sont peut-être difficilement vendables en Amérique latine parce que Jean-Philippe Toussaint n'est pas suffisamment connu comme auteur. C'est une impression, ajoute-t-elle. En Chine, encore une fois, la situation n'est pas si préoccupante que cela grâce à la démarche avisée de l'éditeur. Le traducteur dit « Chaque livre de Toussaint est traduit et publié en Chine sans problème, dans la plupart des cas, sauf « Faire l'amour », qui a dû se cacher dans le volume « Fuir », car son titre est trop osé. Nu a eu ce problème aussi, mais heureusement, on est parvenu à persuader la maison d'édition de garder le titre. La question finale marque un retour au commencement pour boucler la boucle. Le fait de traduire Jean-Philippe Toussaint était-il pour vous un acte exceptionnel en dehors de votre travail normal ou êtes-vous un traducteur littéraire professionnel? Nombreux sont les traducteurs littéraires professionnels. Cependant, pour la plupart d'entre eux, traduire Jean-Philippe Toussaint n'est pas un acte banal. Pour certains, traduire un livre de Toussaint impliquait du courage et la nécessité de faire le premier pas vers une carrière nouvelle. La traductrice estonienne n'est pas la seule à accentuer le rôle du Collège des traducteurs à Sonef, ainsi que la disposition exceptionnelle de Jean-Philippe Toussaint à aider ses traducteurs. Elle dit « Ce qui était exceptionnel, c'était la possibilité de participer au séminaire à Sonef à Sonef à l'été 2016. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve que c'est très intéressant, utile et fructueux pour le travail de traduction d'écouter les commentaires et les explications de l'auteur, de pouvoir lui poser des questions. Le témoignage de la traductrice taïwanaise est encore une fois plus élogieux. Elle dit traduire Jean-Philippe Toussaint a marqué ma vie. Tout simplement. Et je continue toujours dans la traduction. J'essaie de l'introduire dans mon atelier à l'université aussi. J'aime beaucoup sa langue. Il est difficile de rencontrer une telle écriture aujourd'hui. Et je profite de ce témoignage pour conclure ce court voyage autour du monde sous l'égide de l'œuvre de Saint-Hyacinthe. Même si je n'ai pas réussi à répondre clairement à toutes les questions que je me suis posées au début. Pourtant, une chose est claire, pour séduire son lecteur étranger, l'auteur doit d'abord séduire son traducteur, voire l'éditeur. Merci pour votre attention.
Avant de commencer, je tenais à remercier Jean-Michel Devesa et tous les organisateurs du colloque. Ça tombe pile poil au milieu de ma thèse et c'est parfait pour moi. Donc, merci encore. Donc, ma communication s'appelle « Dans le combat entre toi et la phrase, sois décourageant ». Lorsque j'ai choisi d'intituler ma communication comme ça, j'avais en mémoire cette série plastique de Jean-Philippe Toussaint, que vous pouvez voir derrière, cette série plastique qui s'intitule « Texte intégral ». Et que j'avais eu l'occasion de voir exposer lorsque j'étais étudiant à Pau en 2007. Cette installation, qui était déjà présente lors de l'exposition de Toulouse, n'a semble-t-il que peu retenu en fait l'attention de la critique, si l'on en juge par le dossier de presse sur la cinquantaine d'articles parus au sujet de l'exposition de Toulouse, ceux évoquant la série Texte intégral se comptent sur les doigts d'une main. Il n'en est pas non plus question dans l'exposition Livre Louvre, du moins je n'en ai pas trouvé trace dans le catalogue La main et le regard publié en 2012. N'en demeure pas moins qu'elle présente un grand intérêt pour le stylisticien que je suis, du fait qu'elle reproduit sur des tablettes de bronze l'intégralité des publications de Jean-Philippe Toussaint avant 2006. Leur texte est réduit à l'extrême, à la limite de la lisibilité. De cette manière, nous avons un aperçu très direct, très visuel, de l'évolution de l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint, favorisée par sa composition en paragraphes. Donc, repensant donc à cette œuvre qui m'avait profondément marqué en 2007, mon intention a été de me demander de quelle façon l'expansion de la phrase pouvait prendre place dans les œuvres de Jean-Philippe Toussaint et, empruntant à sa dialectique, s'il n'existait pas une stratégie d'épuisement ou de découragement dans ce combat. Car il m'a semblé que le postulat original, plus qu'un principe philosophique, délivrait une stratégie d'être à la création quasi programmatique. Donc on connaît tous cette citation de Jean-Philippe Toussaint. Et tandis que je continuais de m'attarder dans cette cabine en suivant tranquillement le cours de mes pensées, je sentais confusément que la réalité à laquelle je me heurtais commençait peu à peu à manifester quelques signes de lassitude. Elle commençait à fatiguer et à mollir, oui, et je ne doutais pas que mes assauts répétés, dans leur tranquille ténacité, finiraient peu à peu par épuiser la réalité. Comme on ne peut épuiser une olive avec une fourchette, si vous voulez, en appuyant très légèrement de temps à autre, et que lorsque, exténué, la réalité n'offrirait enfin plus de résistance, je savais que plus rien ne pourrait alors arrêter mon élan, l'élan furieux que je savais en moi depuis toujours, fort de tous les accomplissements. Mais pour l'heure, j'avais tout mon temps, dans le combat entre toi et la réalité, sois décourageant. La méthode qui nous est proposée repose par conséquent sur les assauts répétés et la ténacité du narrateur, en opposition à la résistance de son adversaire, qu'il soit olive, réel ou phrase. Comment alors ne pas penser au travail de l'écrivain qui imprime chaque page après l'avoir écrite pour la corriger et la réécrire ensuite? D'une certaine manière, cet extrait présente en substance les prémices de ce que seront les concepts d'urgence et de patience théorisés 20 ans plus tard. Ici, nous nous situons précisément dans ce que Jean-Philippe Toussaint appelle lui-même la phase de maturation, c'est-à-dire la phase de travail préliminaire qui permet d'offrir une voie à l'urgence. Notant par ailleurs, donc j'ai noté en gras dans l'extrait ce qui fait référence à cela, notant par ailleurs qu'il est fait mention de cet élan furieux que le narrateur garde en lui depuis toujours, fort de tous les accomplissements. Ce même mot, élan, sera réutilisé à plusieurs reprises pour désigner l'urgence dans l'extrait, dans l'essai « L'urgence et la patience ». Donc sur le modèle de la série plastique « Texte intégral », je reprendrai l'ensemble de l'œuvre romanesque de Jean-Philippe Toussaint afin de prendre la mesure de son évolution dans le temps. Dans cette perspective, mon approche a été d'étudier sa ponctuation au fil des romans, à commencer par la ponctuation de page, qui rend les livres de Jean-Philippe Toussaint identifiables au premier coup d'œil. Le saut de ligne entre chaque paragraphe est devenu une telle constante qu'il a su se faire oublier des lecteurs à partir du moment où l'auteur n'a plus jugé nécessaire de le souligner en le numérotant. La ponctuation parle à l'œil, écrit Nina Katash. Par ailleurs, cette numérotation uniquement présente dans la salle de bain et qui constitue un écart de style particulier dans l'œuvre de l'écrivain, semble justement mettre l'accent sur cette constance qui fera la discontinuité des récits ultérieurs. D'une certaine façon, cette ponctuation de page rappelle les assauts répétés de la fourchette dans le but d'épuiser l'olive. Mais plus singulièrement, elle impose une structure sémantique au texte qui fait du paragraphe une unité à la fois minimale et majeure, qui arbitre le rythme et la progression narrative des œuvres. Le saut de ligne est à cet égard le moyen pour Jean-Philippe Toussaint de déjouer la linéarité de l'histoire. S'il n'est pas véritablement question de bouleverser l'ordre des événements, il contribue à construire une progression narrative en pointillé. Les paragraphes séparés par des blancs typographiques dessinent alors une forme dans le temps et s'imposent au regard du lecteur comme autant de tableaux, de photographies ou de polaroïdes. Mais sans doute faut-il préciser ce qui se joue au sein de cette structure en analysant plus dans le détail la ponctuation de phrases. En effet, si Jean-Philippe Toussaint ne fait pas un usage ostensible de la ponctuation, il n'en demeure pas moins qu'elle répond chez lui d'un usage bien précis. Il suffit de se rendre sur sa chaîne YouTube pour s'en persuader. On y trouve une vidéo intitulée « Parenthèse étirée » dans laquelle l'auteur relate à ses traducteurs avec quelle exigence il a tenu à avoir des tirés longs pour ses livres alors que les épreuves les avaient remplacés par des semi-quadratins. Citons par ailleurs le travail d'Alice Richir qui a montré dans son article « L'intime entre parenthèses » publié en 2012 comment cette figure d'insertion participe au style de Jean-Philippe Toussaint en devenant le lieu privilégié des apartés par jeu de décrochement énonciatif. Par conséquent, ma démarche a été d'isoler quatre signes de ponctuation, le point-virgule, les deux points, le tiré et la parenthèse, et de calculer leur fréquence d'apparition dans les textes de Jean-Philippe Toussaint de manière à dessiner les contours de l'œuvre dans le temps. Ces ponctuations, nous le verrons, sont révélateurs du combat d'un écrivain avec la phrase. Précisons que pour des raisons de cohérence stylistique, j'ai choisi de circonscrire mon étude à l'œuvre romanesque de l'auteur et j'ai laissé de côté monsieur pour lequel je n'avais pas la ressource numérique. Donc j'en suis arrivé à ce graphique et je suis rassuré de ne pas être le seul à apporter un graphique. Donc je vous laisse quelques secondes pour le regarder. Donc ce graphique présente donc la fréquence d'utilisation de chaque signe au fil des publications de Jean-Philippe Toussaint. La courbe bleue pour le point-virgule, la courbe rouge pour les deux points, la verte pour le tiré ou le tiré double, et la jaune pour les parenthèses. Mon intention n'est évidemment pas de donner des chiffres pour chaque livre, mais plutôt de proposer une autre représentation de l'œuvre à la manière de la série plastique texte intégral. Par exemple, nous pouvons voir au premier coup d'œil que la courbe des parenthèses coiffe la plupart du temps les autres courbes. Or, nous savons que c'est à la faveur de ce signe que l'auteur se permet la plupart de ses traits d'humour. Le graphique nous permet donc de comprendre comment cette tonalité intervient dans chaque œuvre. Un autre aspect qui a retenu mon attention, c'est la véritable cohérence stylistique du cycle de Marie qui est mis en évidence dans ce graphique. Alors, le destin du point-virgule est également intéressant à analyser. En préparant cette communication, j'ai été étonné de trouver le point-virgule si souvent employé dans la salle de bain. Il est présent dès la première phrase du roman et revient à une autre reprise dans le même paragraphe. Lorsque j'ai commencé à passer mes après-midi dans la salle de bain, je ne comptais pas m'y installer. Non, je coulais là des heures agréables, méditant dans la baignoire, parfois habillé, tantôt nu. Edmondson, qui se plaisait à mon chevet, me trouvait plus serein. Il m'arrivait de plaisanter, nous rions. Je parlais avec de grands gestes, estimant que les baignoires les plus pratiques étaient celles à bord parallèle, avec dossier incliné, et un fond droit qui dispense l'usager de l'emploi du butoir calepied. En observant ce graphique, on remarque que la fréquence du point-virgule dépasse celle de la parenthèse dans le premier roman de Jean-Philippe Toussaint. Par la suite, son emploi diminue progressivement, si bien qu'il n'est déjà plus présent dans la réticence et disparaît totalement après la télévision. Comment pouvons-nous alors expliquer qu'un signe qui était si présent a peu à peu disparu de l'écriture de Jean-Philippe Toussaint? Si on se reporte au paysage littéraire des années 80, on observe que la ponctuation intermédiaire, c'est-à-dire les deux points et le point-virgule, subit un certain désaveu. La majorité des écrivains restreignent leur ponctuation à la virgule et au point, qui sont moins chargés en valeur sémantico-grammaticale. Une enquête d'Annette Laurenceau, publiée en 1980 dans la revue Langue française, rapporte que les romanciers de l'époque considèrent le point-virgule comme bâtard, trop sophistiqué ou pas clair. Michel Tournier dira même qu'il n'en a pas encore découvert l'utilité. Ceux qui s'y attachent sont les écrivains qui conservent une vision classique de la phrase française selon laquelle la ponctuation se fonde sur la syntaxe. Cependant, le conservatisme suffit-il à expliquer l'emploi du point-virgule dans la salle de bain, Et plus généralement, nous pouvons nous demander si cet emploi est incohérent avec la proposition stylistique des œuvres suivantes. Dans ce premier paragraphe de la salle de bain, le point-virgule correspond, il est vrai, à un usage relativement classique, à savoir celui de marquer une séparation entre deux unités syntaxiquement indépendantes, tout en conservant un lien logique de consécution. Autrement dit, le second segment semble toujours s'inscrire dans l'idée du premier. Par ailleurs, il est important de rappeler que la salle de bain répond d'une esthétique particulière annoncée par le théorème de Pythagore placé en exergue du roman. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. En effet, si cette phrase annonce les trois parties du roman, Jean-Philippe Toussaint, en 2005, confie à Laurent Demoulin qu'elle était aussi un idéal de style. Je cite « Quoi de plus simple, de plus ramassé et de plus universel qu'un théorème mathématique ? Je voulais que cette épigraphe soit emblématique d'un style littéraire, dire une expérience de la réalité de la manière la plus concise, complète et élégante qui soit. » L'usage du point-virgule est cohérent avec cette ambition esthétique. On le retrouve d'ailleurs souvent employé dans la littérature mathématique ou scientifique pour sa capacité à organiser simplement et sans conjonction des unités complexes. Il sert par exemple à mettre au jour des antithèses ou des parallélismes dans un raisonnement. Enfin, j'avancerai un troisième argument. Comme son nom le laisse penser, le point-virgule permet de ne pas fermer la phrase, de laisser passer un peu de liant entre les propositions, et à ce titre, je pense qu'il peut être un indice de la propension de l'auteur à vouloir ouvrir la phrase. Maintenant, si nous étudions la courbe de la parenthèse, qui semble surplomber les autres avec une fréquence souvent deux fois supérieure, nous observons deux pics significatifs pour la télévision et Made in China. Ces deux pics ne sont pas surprenants si l'on considère que ces deux œuvres jouent régulièrement d'un registre comique, l'auteur ayant déjà confié qu'une des contraintes esthétiques de la télévision avait été de provoquer un rire à chaque page. La parenthèse, par sa forme même, contribue à interrompre la lecture. Elle pose un obstacle sur la ligne du texte et favorise donc, par rupture de ton, les stratégies humoristiques de l'auteur. Un troisième pic est par ailleurs observable au moment de la publication de l'appareil photo, pic donc, dont la moindre importance peut s'expliquer par le basculement d'un registre humoristique à une tonalité plus mélancolique à partir du milieu de l'histoire. Si nous regardons dans le détail, il apparaît d'ailleurs que la majorité des parenthèses sont employées dans la première partie du roman. De manière inverse, nous pouvons relever les endroits où la courbe n'est plus culminante. Cela correspond à trois œuvres, La réticence, La vérité sur Marie et Nu. On se souvient que La réticence est un projet à part dans l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint, dans la mesure où son écriture fut une expérience douloureuse qui transparaît inévitablement dans la gravité du ton du roman. Sur les 159 pages que compte La réticence, on ne compte alors que 8 parenthèses qui interviennent en majorité pour illustrer les instants de complicité avec l'enfant, qui demeure le seul motif de réjouissance de l'histoire. Excusez-moi. Par ailleurs, aucun décrochement énonciatif, comme nous avons pu le noter précédemment, mais au contraire une continuité de ton, comme par exemple dans cet extrait. Demain, finit-il par dire sans me regarder, et notre conversation s'en tint là, qui avait fait le tour de la question somme toute. Il irait pêcher demain, si je voulais le savoir. Et, fort de cette information, je regagnais la place du village pour attendre le taxi. Cet extrait illustre un emploi singulier de la parenthèse, dans la mesure où celle-ci se place dans le prolongement d'une phrase avec une sobriété langagière, sans marque d'oralité, plus prosaïque, pour ainsi dire, que ce qui précède. Cette dimension est particulièrement renforcée par l'emploi du passé simple, qui a pour effet d'asseoir la narration dans les temps du récit, là où Jean-Philippe Toussaint a plutôt tendance à user des temps du discours ou à jouer de l'ambiguïté de l'imparfait. Par ailleurs, les dévaluations de la parenthèse que nous pouvons observer sur le graphique coïncident de manière significative avec le crescendo d'un autre signe, le tiré ou le tiré double. Ces deux signes que nous avons tendance à rapprocher en raison de leur fonction d'incise fonctionnent en miroir dans l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint. Quand l'un monte, l'autre recule. L'exemple de la réticence est particulièrement parlant, mais celui de la télévision également. Là où on observe un pic dans l'emploi de la parenthèse, l'emploi du tiré est au plus bas. Comment expliquer alors cette opposition des deux signes ? Contrairement à la parenthèse, le tiré se place dans l'axe horizontal ou syntagmatique de la phrase, il opère donc un glissement, un prolongement ou une mise en suspens de cette dernière. Les tirés suspendent la constriction syntaxique, écrit Julien de Gracq en écrivant. On comprend dès lors que Jean-Philippe Toussaint les privilégie dans ses œuvres où règne une tonalité plus grave, où la recherche d'une ligne lyrique nécessite de tenir à distance les ruptures de style. Le cycle de Marie offre un exemple intéressant de cette utilisation et le graphique confirme une croissance du tiret à mesure que paraissent les quatre volumes. Pour finir, je vous propose d'étudier quelques exemples d'emploi du tiret et du tiret double, car ils me semblent caractéristiques de la construction phrastique de l'auteur. Dans La Réticence, roman dans lequel Jean-Philippe Toussaint joue avec l'inquiétude du narrateur qui se sent traqué, le tiret double contribue véritablement à créer le suspense. Et son rôle est d'autant plus important que l'intrigue nécessite que dans l'imagination du narrateur... Et son rôle est d'autant plus important que l'intrigue n'existe que dans l'imagination du narrateur. Le soupçon se doit donc d'affleurer qu'à travers le style. Ébloui par les phares, je ne parvins pas à distinguer qui se trouvait à l'intérieur. Et je restais encore un instant accroupi dans la pénombre, écoutant le bruit de la Volkswagen qui s'éloignait et qui, me semblait-il, mais je ne pouvais en être sûr, prenait la direction du port. Dans cet exemple, le tiret double non seulement sépare le pronom de son verbe, ce qui a pour conséquence de retarder la phrase, mais intervient en plus dans le prolongement d'une incise qui opère déjà un effet de suspension, ce qui a pour deuxième conséquence d'étirer encore la tension de la phrase. De plus, le tiret reprend l'élément qui le précède, ici le sentiment de doute communiqué par le verbe « sembler », de manière à le souligner, à lui donner une importance toute particulière. Nous retrouvons ce procédé de répétition à plusieurs reprises dans le roman, notamment de répétition lexicale qui permet d'ajouter une tension à la phrase. Se pouvait-il que Biagi, car je songeais immédiatement à Biagi, je ne sais plus comment on le prononce, excuse-moi, Biagi. Se pouvait-il que Biagi, car je songeais immédiatement à Biagi, fût descendu prendre le petit déjeuner ce matin dans la salle à manger. Et le deuxième extrait, c'était la voix de Biagi qui résonnait ainsi devant moi, la voix de Biagi, vivante, toute proche et en même temps terriblement lointaine. Dans le cycle de Marie, cet usage est également présent, mais dans une moindre mesure. Nous retrouvons plutôt le tiret en position hyperbatique, en fin de phrase ou fin de paragraphe, afin de marquer un glissement de la pensée du narrateur, comme dans cet extrait de Faire l'amour. J'ai regardé la larme se dissiper sur sa joue et j'ai fermé les yeux, en pensant que peut-être, en effet, je ne l'aimais plus. Cette phrase conclut la fin d'un paragraphe dans lequel l'auteur décrit son inconséquence face aux larmes de Marie. Or, le tiret, qui n'intervient qu'à la toute fin, comme un ajout, un bord de phrase, un supplément qui aurait pu ne jamais apparaître, permet d'insinuer le doute dans les sentiments du narrateur et donne par conséquent la raison de son immobilité. Le tiret recouvre donc cette valeur subtile au moyen de laquelle l'auteur peut opérer une inflexion lyrique dans son écriture. Ailleurs, la fonction hyperbatique du tiret prend une telle importance dans la phrase que le segment qu'elle ajoute dépasse le premier. Alors, je ne sais pas si on a le temps de lire l'extrait. C'est bon. Le plateau s'était arrêté et, regardant devant moi les plats disposés sur la table dans les différents raviers, le porc haché au piment, les rognons, le poisson décharné dont ne subsistait que l'arête, les langues de canard qui marinaient dans un reste de sauce brunâtre entière, complète, qui avaient dû être prélevés dans leur totalité depuis le fond de la gorge des canards et partaient du larynx pour s'élargir et devenir effilés à leur extrémité, j'eus soudain un haut le cœur en associant fugitivement une de ces petites langues mortes à la langue de Litchi. Ici se place le tiret. Et cette image effrayante que, sitôt apparue, je cherchais à chasser, vint ternir et comme envenimer le souvenir de douceur et de tendresse passée que j'avais gardé du contact réel de la langue de Litchi dans ma bouche cette nuit dans le train, et, à ce souvenir pourtant délicieux, se substitua alors une sensation de dégoût, d'horreur, de révulsion physique, la sensation concrète et presque gustative d'avoir eu cette nuit dans la bouche, meuble et qui s'enroulait voluptueusement autour de ma propre langue, une de ces petites langues de canard effilées, couleur rose brunâtre, piquetées de papilles gustatives, blanches et rêches. Ici, l'emploi du tiret n'est pas sans nous rappeler celui du point-virgule que nous avons commenté précédemment, à savoir celui de séparer deux unités syntaxiquement indépendantes, tout en conservant un lien logique de consécution. Cependant, le tiret, davantage qu'opérer une séparation, permet avant tout le glissement de la pensée qui se focalise sur un élément de la première phrase pour lui donner une importance plus grande. Pour conclure, je dirais qu'il était sans doute risqué d'aborder en 20 minutes la totalité du corpus romanesque pour faire valoir pour faire valoir les enjeux de la ponctuation dans le combat de Jean-Philippe Toussaint avec la phrase. Mon ambition était surtout de rendre un hommage stylistique à la série plastique Texte intégral de Jean-Philippe Toussaint, en montrant comment ces signes appartenant à l'infiniment petit ont une influence sur l'infiniment grand de l'œuvre. Qu'elle soit séparation ou lien, rupture ou glissement lyrique, la ponctuation ne se limite pas qu'à la question de la langue. Elle propose un rythme, elle déplace la pensée et porte un sens parfois indicible, comme dans le cas des sauts de ligne chez Jean-Philippe Toussaint. En d'autres mots, elle est la trame du style de l'auteur. Pour aller plus loin, je pense qu'il y aurait encore beaucoup à explorer en nous rendant sur le territoire de la génétique des textes, qui permettrait certainement de mettre au jour les choix de Jean-Philippe Toussaint. Également, la dimension plastique qu'offre la ponctuation serait une question pertinente à approfondir. Je terminerai donc cet exposé par une citation d'Isabelle Sersa, qui est ma directrice de thèse et qui a publié ceci. Donc, elle a publié l'esthétique de la ponctuation et elle termine cet essai avec ces phrases. La ponctuation est le style dont use l'auteur pour façonner la phrase à son usage, pour mesurer son allure. Elle est le biais par lequel il peut écrire le temps. Elle bat le rythme, elle jalonne la marche du lecteur qui s'avance dans le roman. Elle est le biais par lequel il peut saisir le temps. Dessinant à nos yeux les formes de notre lecture que notre lecture déplie, la ponctuation délimite l'espace temporel que crée l'œuvre d'art et en est ainsi un des critères nécessaires. Merci beaucoup.
Je vais essayer de me plier à la consigne oulipienne que Jean-Michel nous a donnée, à savoir de parler sans notes. Jean-Michel, que je profite de l'occasion pour le remercier, moi aussi, de l'organisation de ce très beau colloque. Et je vais vous parler aujourd'hui de la procrastination, en insistant pour commencer sur le fait que c'est un processus dont l'image s'est modifiée, me semble-t-il, depuis un certain temps. Et elle est accueillie avec davantage de tolérance. En témoigne le livre best-seller de John Berry, La procrastination, qui insiste sur le fait que nous devons rester bienveillants avec nous-mêmes quand nous sommes affectés de ce processus. Ce ne sera pas la direction que je prendrai, parce que je pense que même la bienveillance continue à pathologiser la procrastination, alors que je pense qu'il s'agit au contraire d'une véritable position philosophique. Je n'hésiterai pas à dire d'une Weltanschauung, et c'est dans cette direction que je m'engouffrerai à la lumière d'un livre, Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse, dont le principe consiste à aller dans le prolongement de Freud, piller les bons auteurs pour leur emprunter des nouveaux concepts ou des nouveaux modèles. Mon exposé sera structuré en trois parties, la procrastination administrative, la procrastination artistique et la procrastination amoureuse. La procrastination administrative est bien connue de nous et je crois qu'il nous arrive dans de nombreuses circonstances de reporter au lendemain ou au surlendemain ce que nous devions faire le jour même. Elle a été popularisée en France par Thomas Thévenoud, ministre de François Hollande, qui a dû quitter le gouvernement après qu'un journal avait révélé qu'il n'a quitté ses impôts qu'avec plusieurs mois de retard. Il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et une peine d'inéligibilité d'un an. Et je dois dire que Thomas Thévenoud n'a pas aidé ceux qui, comme moi, se battent pour la reconnaissance de la procrastination comme position philosophique. Il a en effet plaidé la phobie administrative, ce qui fait que, d'une certaine manière, il a tiré à nouveau, en se culpabilisant lui-même bien à tort, la procrastination vers la pathologie. John Perry, l'auteur que j'ai déjà cité, est plus accueillant parce qu'il fait remarquer que la procrastination est une véritable écoute du processus temporel et de ce qui se passe. Il fait remarquer que quand on a une liste de choses à faire et qu'on ne les fait pas toutes, inévitablement, les éléments de la liste disparaissent au bout d'un certain moment. Il prend l'exemple de l'université où il enseigne et il a constaté que quand il avait la charge de faire quelque chose, s'il ne le faisait pas au bout d'un certain temps, un collègue s'en occupait. De la même manière, il invite à ne pas se précipiter vers l'accomplissement de ses promesses. Ainsi avait-il promis à un ami de l'inviter à la finale de baseball avec les Giants de San Francisco, mais heureusement, il ne s'est pas précipité pour acheter le billet et les Giants ont été éliminés avant d'atteindre la finale. Ce que montre le procrastinateur, c'est une attention au déroulement du temps et à la mobilité du temps, à la mobilité de la réalité. C'est en cela que pour moi il s'agit d'une véritable position philosophique. On peut en voir une illustration dans la scène fameuse qui ouvre l'appareil photo. Elle me tendit un formulaire que je repoussai sans même y jeter un coup d'œil, lui expliquant que rien ne pressant, je préférais le remplir plus tard si c'était possible, quand je reviendrai avec les documents par exemple, ça me paraissait beaucoup plus simple. Ce qui compte dans ce passage, c'est le rien de presse. Le procrastinateur a conscience que la réalité ne cesse de différer d'elle-même. Tout change. Et donc, à la limite, il n'y a pas de procrastination possible parce qu'il n'y a pas de retard possible. Le retard ou le report implique une stabilité de la réalité, ce que conteste le procrastinateur. La jeune femme, Pascal, lui fait remarquer qu'il aura du mal à remplir son dossier puisque chaque fois qu'il revient, il manque des pièces. Mais il conteste. Personnellement, je n'en étais pas aussi sûr. Elle se méprenait en effet sur ma méthode, à mon avis, ne comprenant pas que tout mon jeu d'approche, assez obscur en apparence, avait en quelque sorte pour effet de fatiguer la réalité à laquelle je me heurtais, comme on peut fatiguer une olive, par exemple, avant de la piquer avec succès dans sa fourchette, je prends un exemple concret d'olive, et que ma propension à ne jamais rien brusquer, bien loin de m'être néfaste, me préparait en vérité un terrain favorable, où quand les choses me paraîtraient mûres, je pourrais cartonner. Ce qu'a bien compris le procrastinateur ici, c'est que la réalité, dans sa mobilité, ouvre de multiples perspectives. Ainsi, dans les univers parallèles, où il remplit son dossier à temps, qui nous dit que s'engage entre Pascal et lui la relation amoureuse que le livre raconte ? On peut le supposer, l'opposé du procrastinateur, c'est le fonceur. Le fonceur ne comprend pas la multitude de possibilités qui s'ouvrent à chaque instant de l'existence et la nécessité d'être prudent avant de fixer les choses et, par exemple, de fixer la pensée. Le procrastinateur est hostile à la précipitation, que celle-ci soit comprise sur un plan temporel ou sur un plan chimique. La pensée, me semble-t-il, est un flux auquel il est bon de foutre la paix pour qu'il puisse s'épanouir. Que l'on désire, au passage, si cela nous chante, isoler une pensée, une seule, et l'ayant considérée et retournée dans tous les sens pour la contempler, que l'envie nous prenne de la travailler dans son esprit comme de la pâte à modeler, pourquoi pas, mais vouloir ensuite essayer de la formuler, est aussi décevant, in fine, que le résultat d'une précipitation, où autant la floculation peut paraître miraculeuse, autant le précipité chimique semble pauvre et pitoyable, petit dépôt poudreux sur une lamelle d'expérimentation. Nous sommes donc bien ici face à deux positions philosophiques opposées. Il y a la position du fonceur, que l'on pourrait qualifier de platonicienne. Il considère qu'il y a une réalité ou une vérité dont on peut s'approcher. Et puis il y a la position du procrastinateur, qui est héraclitéenne. Il sait que tout bouge, que tout change, et qu'il faut être attentif à ce mouvement de la réalité pour s'y insérer au moment opportun. La procrastination artistique. Sur ce plan, Jean-Philippe Toussaint nous a donné de nombreux éléments. D'abord avec un roman, la télévision, mais également avec un texte qui figure dans le recueil « L'urgence et la patience ». Comme vous le savez, dans la télévision, vous avez un procrastinateur essayiste qui essaye, à Berlin, d'écrire un livre sur le Titien et passe en fait l'essentiel de son temps à ranger son bureau, à préparer ses stylos, à réfléchir sur le nom du peintre, Titien, le Titien, Tiziano, voire à faire et refaire la première phrase. Et il ne fait rien. Il ne fait rien, mais c'est plus compliqué, car en fait, ce que nous montre Jean-Philippe Toussaint, c'est que ne rien faire peut être une modalité de l'action. Je ne faisais rien par ailleurs. Par ne rien faire, j'entends ne rien faire d'irréfléchi ou de contraint, ne rien faire de guidé par l'habitude ou la paresse. Par ne rien faire, j'entends ne faire que l'essentiel, penser, lire, écouter de la musique, faire l'amour, me promener, aller à la piscine, cueillir des champignons. Ne rien faire, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer un peu vite, exige méthode et discipline, ouverture d'esprit et concentration. Non seulement ne rien faire peut être une action, mais Jean-Philippe Toussaint va plus loin en suggérant qu'il est important pour écrire de ne pas écrire. J'ai toujours remarquablement bien travaillé mentalement, il est vrai, me laissant peu à peu imprégné par le livre que je projetais d'écrire. Plus bas, et toujours étendu là tranquillement dans l'herbe du parc de Hallensee, je songeais que finalement, dans la perspective même d'écrire, ne pas écrire est au moins aussi important qu'écrire, mais qu'il ne fallait peut-être pas en abuser, tel serait en effet le seul petit danger qui pourrait me guetter ces temps-ci. Et on voit bien ici comment il y a une réflexion très profonde sur ce qu'est un intellectuel. Qui n'est pas quelqu'un qui se précipite sur les concepts, sur la phrase, mais qui laisse mûrir en lui, dans un processus fondamental de procrastination, les idées qui infusent. Il n'est pas étonnant, dans ce contexte, qu'une image revienne sans cesse, celle du flux. Et il n'est pas étonnant que le narrateur de la télévision passe beaucoup de temps pour travailler à nager. Me concentrant sur le simple déroulement naturel de mes mouvements dans l'eau, je nageais paisiblement dans ce bassin bleuté en songeant à l'évolution de mon travail, le bain ne m'ayant jamais paru incompatible avec l'étude, bien au contraire. Et les reflets du soleil multiples, irisés, décomposés, glissaient généreusement autour de moi en miroitant le long de mes bras à chacune de mes brasses, et je continuais à travailler ainsi tranquillement à mon étude en faisant mes longueurs de bassin. Ce qui apparaît un peu plus loin, c'est une véritable tentative pour conceptualiser ces temps de la procrastination avec les concepts de coulant et de janséniste. Et ça, c'est du concept. Il y a toujours eu deux processus distincts à l'œuvre dans le travail littéraire, me semble-t-il, deux pôles séparés, complémentaires en quelque sorte, quoique nécessitant des qualités diamétralement opposées, l'un souterrain de gestation, exigeant désinvolture et souplesse, disponibilité et ouverture d'esprit, afin d'alimenter en permanence le travail d'idées et de matériaux nouveaux, et l'autre plus classique qui exige méthode et discipline, austérité et rigueur, au moment de la mise en forme définitive. Disons que depuis le début de l'été, de ces deux pôles, le janséniste et le coulant, c'était plutôt le coulant que j'avais privilégié. La question se pose tout de même, à un moment, quand on fait une œuvre, de savoir quand on passe, si j'ose dire, du coulant au janséniste. Pour réfléchir sur ce point, nous pouvons peut-être revenir sur l'autre distinction majeure évoquée dans la conférence précédente, introduite plus tard dans son œuvre par Jean-Philippe Toussaint, entre l'urgence et la patience. Il y a toujours en jeu, je crois, dans l'écriture, ces deux notions apparemment inconciliables, l'urgence et la patience. L'urgence, qui appelle l'impulsion, la fougue, la vitesse, et la patience qui requiert la lenteur, la constance et l'effort. Mais elles sont pourtant indispensables l'une et l'autre à l'écriture d'un livre, dans des proportions variables, à des dosages distincts, chaque écrivain composant sa propre alchimie. Il me paraît probable que l'on puisse, sans déraisonner, superposer ces deux couples, de la patience et de l'urgence, ou du coulant et du janséniste, dans la mesure où ils mettent bien en scène ces deux temps constitutifs de la procrastination que sont à gauche le travail intellectuel et à droite le passage de la fourchette et de l'olive. Soyons quand même sérieux. Il convient surtout de ne pas confondre l'urgence et la précipitation. Et voici une sorte de mathème lacanien. L'urgence, comme la patience, est un temps constitutif de la procrastination, parce que l'urgence est attentive au défilement du temps, à la mobilité des choses et cherche le moment où intervenir. Ce que n'est pas la précipitation, qui néglige complètement cette dimension du temps et de la mobilisation de la réalité, de cette opposition majeure entre procrastination et précipitation. On peut regretter dans ces circonstances. Surtout en ces temps actuels que de nombreux collègues s'obstinent à ne noter que le résultat final des travaux, sans aucunement s'intéresser au processus même qui mériterait d'être analysé et évalué. Permettez-moi d'avoir une pensée en cette semaine de baccalauréat pour tous ces étudiants qui seront exclusivement notés sur ce qu'ils ont réalisé dans la précipitation, ni dans l'urgence, ni dans la patience, sans que les examinateurs s'intéressent au long processus intérieur qui mériterait d'être évalué, qui les a conduits là. J'en viens à mon troisième point, la procrastination amoureuse, sur laquelle nous avons moins d'éléments chez Jean-Philippe Toussaint. Aussi convient-il de mener un travail interprétatif, mais ce n'est pas cela qui rebute un freudien. Ce que l'on peut se dire déjà dès le départ, c'est qu'il y aura dans cette perspective une hostilité à tout ce qui peut être précipitation. Et on peut penser ici à cet épisode de Nu où Jean-Christophe de G se précipite sur Marie dans une exposition sans réaliser qu'il ne s'agit pas de Marie. Dans une autre scène que vous trouverez dans Fuir, le narrateur se précipite sur une jeune chinoise dans les toilettes d'un train, le narrateur est en haut à gauche, et leur étreinte est interrompue par un coup de fil de Marie, ce qui me paraît une représentation symbolique du fait qu'il y avait là précipitation et non pas procrastination. On ne peut quand même s'empêcher de se demander dans quelle mesure la théorie de la procrastination, sur ce point particulier de la séduction amoureuse, ne risque pas d'être inefficace et s'il n'y a pas des dangers à sans cesse attendre. C'est le cas, par exemple, hein, dans une scène de Faire l'amour, où le narrateur qui se trouve à Nagoya voit une jeune femme sur le quai, le train est arrêté, lui faire un signe, et n'a pas la réactivité qu'il faudrait avoir, celle d'inscrire rapidement son numéro de portable sur sa paume pour que la communication puisse se prolonger. On pourrait dire autant de la relation avec Hunting, qui est la femme qui dessine les livres de Jean-Philippe Toussaint en Chine, et qui à plusieurs reprises dans Made in China fait des avances très claires au narrateur, lequel n'a pas l'air de s'en rendre compte. Elle me regardait avec beaucoup d'attention, posément, avec une expression rêveuse et respectueuse. Elle dit quelque chose en chinois à Chapin qui me traduisit la phrase mécaniquement, sans même me regarder, en continuant de regarder dehors par la vitre. Elle veut savoir, quand vous ne travaillez pas, quels sont vos loisirs ? Le narrateur ne réagit pas et ne réagit pas davantage quand la jeune femme, Haiting, lui demande quel fruit il aime en le regardant rêveusement, le menton sur sa paume. On pourrait donc penser que le rien faire ici est un danger dans le cadre de la séduction amoureuse. Mais est-il vrai qu'il ne se passe rien ? Là encore, comme dans les cas précédents, je crois qu'il faut être attentif au fait qu'il se passe toujours quelque chose, même quand il ne se passe rien et que des processus invisibles sont à l'œuvre. Reprenons cette scène avec Hunting. On avait fini par faire complètement abstraction de l'interprète. D'ailleurs, je commençais à me dire que sa médiation était devenue inutile. Notre conversation pouvait très bien passer sans les mots. Nous pouvions continuer de communiquer simplement par des échanges de regards. Et si on continue le texte, on se rend compte que c'est quasiment une scène amoureuse à distance qui est en train de se produire. J'étais assis sur un tabouret le long de la baie vitrée et de temps à autre, mon bol de riz à la main, je regardais Hunting de l'autre côté de la table qui portait rêveusement à sa bouche un fragment de légumes entre ses baguettes. Ce qui apparaît, c'est que ces processus invisibles qui sont à l'œuvre dans la procrastination créatrice sont aussi à l'œuvre dans la procrastination amoureuse et qu'il convient d'y être attentif. Finalement, on pourrait relire l'ensemble du cycle de Marie comme illustrant ce travail des processus invisibles et ce travail sur l'olive. Car de même qu'il arrive parfois qu'une fêlure s'installe dans la vie amoureuse d'un couple qui, avec le temps, ne peut que s'étendre et s'aggraver pour aboutir à une rupture définitive, je sentais que pour nous, c'était plutôt dans le principe même de notre rupture qu'une lézarde était en train de s'installer, qui, avec ce que nous venions de vivre et le fait que Marie était enceinte, ne pourrait que s'accroître, au point que si elle venait à s'élargir encore, c'est l'idée même de notre séparation qui se trouverait menacée et que nous finirions tôt ou tard par nous remettre à vivre ensemble. Ici, c'est la dégradation elle-même, ce processus qui a cours pendant 4 livres, qui est l'objet d'un phénomène de dégradation. À nouveau, il y a une action du temps sur la réalité qui est parvenue à modifier la réalité. Et on peut dire que tout se passe comme si l'un et l'autre, au fil de ces 4 volumes, avaient travaillé l'olive et étaient parvenus à modifier la réalité, suivant un principe donc, que je vous explique maintenant, qui n'est pas très facile, qui est celui-là. cette représentation des potentialités de la réalité, aussi bien sur le plan administratif que sur le plan de la création, que sur le plan de l'amour, nous conduit à une vision plutôt optimiste des choses. Sur le plan de l'amour, par exemple, il y a toujours des voies à creuser et des olives à harceler jusqu'à ce que l'on obtienne ce que l'on recherchait. Aucune situation, à lire Jean-Philippe Toussaint, n'est définitivement perdue. Je conclus. En trois points, j'avais évoqué dans mon introduction un modèle toussaintien du psychisme. Je résumerai ce modèle en trois caractéristiques. D'abord, comme vous l'avez compris, ce qui est essentiel, c'est la mobilité du temps. Ce en quoi je dirais que le modèle toussaintien est beaucoup plus proustien que freudien. Vous savez que chez Freud, le temps inconscient est quelque chose de complètement immobile. L'inconscient ne connaît pas le temps. Ici, en revanche, nous avons un inconscient qui est très mobile, suivant la temporalité, et une représentation donc du psychisme qui est différente. Ce qui conduit à une mobilité psychique beaucoup plus grande que dans la psychanalyse, que dans le réel lacanien ou la vision freudienne. À mon avis, le psychisme qui se dégage de cette œuvre est plus proche des personnalités multiples que j'ai évoquées dans mon livre « L'énigme Tolstoïevski ». Et troisième point, c'est une représentation du monde et du psychisme qui est fondamentalement optimiste, car il y a toujours des possibilités qui s'ouvrent. Contrairement au modèle freudien, qui est un modèle de la nécessité et de la répétition, ici nous avons un modèle du surgissement, de l'événement, du hasard, qui ouvre toujours des perspectives nouvelles dans une réalité en transformation incessante. C'est donc un modèle qui nous invite à transformer nos vies et à nous inspirer de toutes les potentialités qu'offre le réel. Je vous remercie de votre attention.
Tout d'abord, permettez-nous de remercier et de nous féliciter avec M. Devesa pour cette méticuleuse organisation parfaitement orchestrée. Nous remercions également le comité scientifique pour cette invitation. Nous sommes très, très honorés.
Et alors, une toute petite remarque pour pouvoir tenir les délais, le temps. Nous allons donc passer toutes les citations, mais qui seront toutes systématiquement à l'écran.
D'accord. Bon, on va commencer notre communication en mettant en exergue ce que Toussaint écrit de lui-même dans le dictionnaire des écrivains contemporains de langue française par eux-mêmes. Bon, dans l'écriture de Jean-Philippe Toussaint, le jeu se matérialise difficilement. Pourtant, l'auteur belge s'affirme toujours plus présent dans et à la marge de ses textes, jusqu'à devenir son propre personnage. Made in China en est le point d'orgue jusqu'ici. La multiplication hypermoderne des perspectives narratives, croisant toutes les ressources technologiques et médiatiques, crée un kaléidoscope de postures qui affirme la réalité d'une présence auctoriale tout en dévoilant une figure évanescente, une image impossible. En résulte une relation peureuse entre réalité et fiction, qui se nourrit de la culture intermédiale de l'auteur qui interroge de manière singulière et inédite la relation que nous, aujourd'hui, le virtuel et l'actuel. C'est dans cette sorte d'entre-deux que se bâtit une scénographie auctoriale et existentielle capable de représenter la complexité du moi dans le monde contemporain. Cette communication viendra superposer de manière intermédiaire toutes les silhouettes que donne à lire et à voir Jean-Philippe Toussaint afin de tracer le portrait le plus rassemblant possible du personnage écrivain par rapport à son image, c'est la première partie de notre communication, et à travers son inscription dans l'espace et le temps, ainsi qu'à son rapport à l'autre, et c'est la deuxième partie de notre communication. Quand le lecteur se plonge dans l'univers de Toussaint, il ne peut pas oublier que ses œuvres littéraires ont partie liée avec le cinéma, duquel l'écrivain tâte également. Le lecteur doit alors renoncer à se plonger dans une convention romanesque car il est invité à participer à une narration qui se construit sur une modalité plurielle, comproduit d'une personnalité autoriale qui joue en même temps le rôle de narrateur, d'écrivain, d'essayiste, de photographe et de metteur en scène. Cette ambiguïté relationnelle et posturale, cet ondoyement entre différentes formes d'expression qui mélangent le voir, le faire voir et l'être vu, témoigne de la relation directe que la production toussaintienne a avec l'image spéculaire et avec la dimension statique dynamique et sans doute insaisissable de l'autoportrait, qui souvent cause au narrateur une rencontre avec soi-même et une conscience de n'avoir prise sur rien, comme on peut lire dans Made in China, ou encore de ne faire rien et de n'attendre rien de particulier. Et c'est la réticence que je viens de citer. Or, s'étudier une posture, c'est aborder ensemble et croiser la personne, l'écrivain et le narrateur. Nous nous demandons si les conduites de Jean-Philippe Toussaint, l'éthos de l'écrivain essayiste, du metteur en scène, du photographe et les actes de la personne, entretien télévisé, radiophonique ou encore en direct, peuvent se combiner comme dans une mosaïque. De toute évidence, si les conduites toussaintiennes sont structurellement liées à la dynamique créatrice, nous pourrions affirmer paradoxalement, comme Balzac, qu'il n'y a rien qui soit d'un seul bloc dans ce monde, tout y est mosaïque. La notion de posture se différencie notamment de la notion d'éthos, centrée uniquement sur l'image de soi que l'écrivain produit dans son texte. Si nous considérons avec Meso l'éthos comme, je le cite, l'image de l'écrivain formée au cours d'une série d'œuvres signées de son nom, si encore la notion d'éthos se focalise donc sur l'énonciation, Manguenot propose de distinguer entre la personne, à savoir l'individu hors de la création littéraire, l'écrivain, l'acteur dans le champ littéraire, et l'inscripteur, celui qui énonce le texte. Or, même si la médiation entre ces trois instances ne fonctionne pas proprement parlée dans ses œuvres romanesques, l'écriture du Toussaint essayiste s'affirme comme un acte institutionnel dans lequel l'inscripteur coïncide avec l'acteur responsable du discours, à savoir l'écrivain, permettant ainsi d'étudier l'éthos, à savoir la construction discursive dont a très bien parlé Ruth Amossi. Déployée par l'inscripteur, la position effective occupée par l'écrivain sur la scène littéraire et artistique et les stratégies pour se rendre visible au lecteur. Nous pensons ici au spectacle MMMM, spectacle qui mêle la lecture de morceaux choisis à la musique, la vidéo et l'art contemporain, et où Toussaint, présent sur scène, a incarné tantôt le narrateur, tantôt la figure de l'auteur. De même, le projet Borges pourrait être en quelque sorte une représentation d'une certaine volonté de l'auteur de sortir ludiquement de soi-même pour y revenir immédiatement, comme vous pouvez le lire sous la DIA où il y a un extrait de sa contribution au projet Mise en ligne, où Toussaint introduit le vertige de la fiction à travers la nouvelle apocryphe de Borges, L'île des anamorphoses, dont l'auteur pourrait être l'écrivain argentin, son exégète de fiction Alfred Bruyas, ou Toussaint lui-même. La mosaïque qui constitue la substance identitaire est donc explorée par Toussaint à travers une posture que nous avons définie miroitante, où l'instance auctoriale, l'image de l'auteur et le narrateur, se projette dans le texte comme dans un miroir, en s'échangeant souvent le rôle et en brouillant les pistes. Le lecteur est continuellement invité à recomposer, à l'aide de diverses traces, le puzzle d'un portrait identitaire. Pouvons-nous dès lors imaginer que Jean-Philippe Toussaint, devenu désormais personnage public, demande à se reconnaître au miroir de l'image qui lui renvoie le public? Pouvons-nous dire que c'est par et dans le regard des autres que s'affirme l'instance identitaire? Comme le dit Jean-Pierre Vernant, dans cet affrontement avec le miroir, il y a à la fois dualité, dédoublement et unité, identité. C'est le même qui est deux. Le même schéma se reproduit face à la télévision ou tout autre écran révélateur du malaise contemporain vis-à-vis de l'image et de l'identité. En effet, dans presque tous les romans de Toussaint, le narrateur se confronte avec son image au miroir. Et cette image n'est pas plus rassurante qu'elle ne permet de cerner les traits du personnage. Ses voyants réduits à une pure silhouette et réalisant que son visage est invisible, ce regard absent ou encore se regardant dans le miroir, il songe à l'autoportrait de Mapplethorpe, le jeune narrateur dit ainsi la conscience d'une image absente comme affirmation de l'impossibilité d'exprimer le moi à travers la représentation. Idée qui est de manière ironique évoquée par Jean-Christophe Dégé dans La vérité sur Marie que vous pouvez lire sur la DIA. Nous retrouvons ce même concept de présence-absence schématisé dans le compte rendu que Toussaint fait de sa première photo, que vous pouvez lire également sous la DIA, où il paraît évident que la parole identitaire se situe dans le domaine flou d'un entre-deux et reste pourtant nécessaire comme recherche constante de sa réalité. C'est aussi le cas du film « La patinoire » où Tom Novembre se présente dans la scène en faisant, disons, très Toussaint. Pour appuyer notre hypothèse, il faut remarquer que ce n'est pas un hasard si ce jeune cinéaste cite tout au long du tournage son collègue Robert Bresson et ses modèles impassibles, neutres, mécanisés, extérieurement libres intérieurement, qui remplacent l'acteur traditionnel. Ces stratagèmes révèle une sorte d'accord particulier entre le cinéma toussaintien et la condition ordinaire évoquée par Bresson, d'une humanité fictionnelle ouvrant la réflexion sur un homme invisible rendu visible par le film. Dans cette sorte de minimalisation du fait littéraire et cinématographique, s'approchant de la réalité, Toussaint a recours à une introduction programmatique de la réalité réelle. Dans certains de ses textes, Made in China en est un exemple clé. Et c'est ce qui a lieu aussi dans le film La patinoire, par l'introduction de la vraie équipe de jouets de hockey sur glace de Lituanie. Dans la fiction. Vous pouvez lire ce que Toussaint même affirme à ce propos sur la DIA. De ce fait, nous pouvons conclure cette première partie de notre communication en affirmant que la posture, à savoir toutes les conduites énonciatives et institutionnelles de Toussaint, reflète, comme dans un miroir, l'éthos de l'écrivain et inversement. Les deux constituent deux fragments du même mosaïque, emportant à l'extrême le concept foucaultien d'hétérotopie. Il s'agit d'une image répliquée à la manière des sérigraphies d'Andy Warhol dans l'œuvre de fiction, aussi bien que dans la production cinématographique et dans les essais où l'écrivain belge joue avec l'anamorphose d'une identité in progress, en cours, comme devant un miroir déformant. Hypothèse qui se trouve confirmée par son œuvre « Mes bureaux, luoghi dove scrivo », ouvrage dont vous parlera aussi Christophe. Il se présente en tant qu'écrivain, mais il le fait, voilà le paradoxe à la Toussaint, à travers son absence, mais aussi plus récemment par son projet Borges, dont l'extrait en question apparaît sur la DIA. Le narrateur n'est au fond alors qu'un autoportrait anamorphosé de l'auteur qui d'un côté joue avec la dépersonnalisation de l'individu et de l'autre ironise sur sa célébrité, disons, confidentielle. Son « je suis très connu, mais personne ne le sait », déplaçant sans cesse les frontières entre réalité et fiction.
Maggie le disait tout à l'heure, un point d'orgue est atteint avec « Made in China », où la mise en scène du jeu écrivain qui se joue des limites entre fiction et réalité constitue le sujet du récit. Et Toussaint de nous contredire immédiatement au sein même du texte en indiquant malicieusement que des trois interactions qui animent Made in China, à savoir les coïncidences entre passé et présent, entre réalité et fiction, entre monde intérieur et monde extérieur, seule la troisième peut être considérée comme le sujet du livre. Je cite « Le sujet de mon livre, c'est le hasard dans l'écriture ». C'est la disponibilité au hasard que requiert toute création artistique. Journal de tournage qui essaime les dispositifs gigognes, Made in China joue de ressorts qui nous sont familiers depuis Proust en leur associant les fins alternatives, les bonus cachés et autres memes propres aux technologies de notre époque postmoderne. L'œuvre tend donc à demeurer ouverte, même de manière invisible. Le visage de l'œuvre, pas plus que le visage de l'auteur, ne peuvent se figer, sinon à dévoiler, comme par palimpseste, tout ce que le réservoir des possibilités romanesques infinies, ce sont les termes qui sont dans Made in China, était susceptible de lui offrir. Même s'il est connu, le visage de l'écrivain, sa personne tout entière, doit continuer à échapper par tous les moyens. Ainsi se multiplient au fil des textes, des essais et du paratexte, des apparitions dont l'abstraction suscite la curiosité et le sourire. Il en va ainsi, dans le petit essai intitulé « Mes bureaux », des instruments de travail qui se donnent comme le signe de la même présence-absence que celle qui était perceptible dans les romans. Il en va de même pour les couvertures d'œuvres ornées d'autoportraits méconnaissables ou des autoportraits qui jalonnaient l'exposition « Livre Louvre » en 2012 et qui ponctuent aujourd'hui encore les pages de « La main et le regard ». L'écrivain cherche-t-il alors dans ce cas à se tenir à l'écart des projecteurs, un reclus des lettres à l'instar d'un Blanchot, d'un Salinger ou d'un Beckett? L'écrivain a-t-il, comme le mystérieux Banksy, ou comme le Young Pope incarné par Jude Law sous la direction de Paolo Sorrentino, saisi que dans un monde dominé par l'image, le fait d'entretenir le mystère sur sa personne et son visage était une façon de maîtriser son image publique aussi bien que d'attiser la curiosité? Assurément, Jean-Philippe Toussaint a compris qu'une rockstar se devait aujourd'hui, au sein de l'univers multimédiatique, de présenter plusieurs visages de soi-même. Ainsi, Lady Gaga affiche-t-elle continuellement une poker face, sauf lorsqu'elle endosse un rôle de comédienne, interprétant une chanteuse à succès. De même, la chanteuse australienne Sia joue d'une image déformée sur la pochette de ses disques, court les événements mondains masqués de perruques abracadabrantes ou se pare d'un double censé la représenter dans ses clips, la jeune danseuse Maddie Ziegler. Tel l'artiste plasticien Patrick Moya, Toussaint s'invente un monde virtuel, non de toiles et d'images de synthèse, mais à travers des personnages qui le représentent et au sein d'un univers modelé à son image et à son nom. L'auteur de Fuir littéralement donne de sa personne. Il convient dès lors d'interroger ce mécanisme, que celui-ci relève de la projection, de la lieutenance ou de la procuration. Un écrivain n'est a priori pas un homme de la scène ni un homme de l'écran. Or, toute la carrière de Toussaint progresse vers toujours davantage de jeux sur la représentation, une représentation résolument impossible, inachevable, pour être toujours là où on ne l'attend pas. Toussaint, cinéaste ou performeur, se met ostensiblement en scène, voire sur scène, même par procuration, mais accumule les portraits et les autoportraits incongrus. Ainsi, portrait de l'artiste en footballeur dans La Mélancolie de Zidane et dans Football, portrait de l'artiste en Jeff Koons dans La Nouvelle Le Mans qui ensuite a été récupéré dans Football, portrait de l'artiste en Fantin Latour dans La Main et le Regard, ou bien portrait de l'artiste en Bouddha paradoxalement titifalique sous l'objectif de Chen Tong dans Made in China. Et il y en a bien d'autres. Se décrire soi revient avant tout à se mesurer à l'aune de l'autre, dans un reflet que Toussaint désire spéculaire. Si les traits du visage demeurent brouillés dans Made in China, l'écrivain se projette dans des figures qui lui paraissent receler une connexion intime avec lui, comme le véritable lien ombilical qu'il attache à Chen Tong, son éditeur en mandarin, qui s'avère être l'un des protagonistes principaux du récit de 2017, et partant, un reflet spéculaire de l'auteur de l'appareil photo. Outre l'écrivain belge, Chen Tong publie également Beckett et Roque Grillet, ainsi que le rappelle Toussaint au sein du récit. Comme si une boucle se devait d'être proustiennement bouclée, l'auteur de l'innommable et le pape du nouveau roman ont apporté à Toussaint une première reconnaissance de père, autant qu'il représente à ses yeux des figures tutélaires. Or, le premier livre français publié par Chen Tong s'avère être Le miroir qui revient. Premier tome des romanesques, œuvre autobiographique, romancée, au sein de laquelle Roque Grillet évoque son intérêt pour l'œuvre de Toussaint. Le miroir qui revient semble constituer par ailleurs un hypotexte probable de la scène de vertige temporel, que vous pouvez trouver ici, autant celle de Roque Grillet que celle de Toussaint, à laquelle se livre Toussaint à la fin de la première partie de Made in China, au sein duquel le présent se trouve effacé à force d'être biffé et remplacé par d'autres présents. L'on connaît, bien sûr, les libertés que Toussaint prend avec l'espace-temps depuis les 27 ans, bientôt 29, de la salle de bain, jusqu'à la simultanéité simulée d'une scène de sexe entre Marie et le narrateur dans La vérité sur Marie. Chez lui, le vertige de ce qui coïncide est plus grand encore lorsque la coïncidence se révèle, in fine, impossible. Modifier le déroulement du temps est par excellence, ce sont les mots de Made in China, ce pouvoir magique, le pouvoir de la littérature. Mais plus encore qu'une leçon virtuose de littérature, ce jeu sur le temps et en particulier sur les avatars de l'ici et maintenant donne lieu au développement sur la place du hasard au sein de l'œuvre qui, dans la foulée, permet l'évocation de la mort du père de l'écrivain, Yvon Toussaint. Yvon Toussaint, grand reporter et lui aussi écrivain, avait à l'instar de son fils le goût des vertiges spéculaires. L'année où Jean-Philippe figure dans la sélection du prix Goncourt pour La vérité sur Marie, Yvon Toussaint figure dans celle du prix Rossel pour l'assassinat d'Yvon Toussaint. Ni père ni fils ne seront malheureusement lauréats, mais un fil se noue d'une œuvre à l'autre. Le roman du père, contrairement à ce que le titre pourrait laisser présager, vous pouvez voir ici le mode d'emploi, enfin un extrait du mode d'emploi de l'assassinat d'Yvon Toussaint, porte sur son homonyme haïtien et non pas sur lui-même. Les principaux matériaux du récit sont empruntés à la réalité historique et cependant, Yvon Toussaint verse dans la fiction, par défi envers la théorie littéraire, Philippe le Jeune nommément en tête dans le mode d'emploi qui succède à des épigraphes de Sartre, mais surtout de Borges et d'Aragon, ce qui me paraît très intéressant aussi. L'objectif d'Yvon Toussaint, je le cite, « dénier le réel et authentifier la fiction ». Tel père, tel fils, et rien de moins que Toussaint. Dans le projet Borges, Alfred Brouillas, projection de l'écrivain belge, c'est le terme qui est utilisé dans la nouvelle, qui possède la même date de naissance que lui, mais évolue à une époque différente, affiche, selon le narrateur Toussaint, une attitude qui lui rappelle fugitivement son père. Et pour cause, au moment où il lui apprend que les « ils » en littérature sont en réalité des « jeux ». Je me projette en l'autre. L'autre est lieutenant de moi-même. Il n'y a pas procuration de l'image d'autrui, mais bien plutôt surimpression d'image que chaque perception du temps, selon un présent donné, anamorphose relativement aux autres instants, également désignés comme présents. La nouvelle de la mort de Robe Grillet, comme le décès d'Yvon Toussaint, se profile donc comme des charnières dans l'amitié que Toussaint relate, enfin dans l'amitié que Toussaint relate au sein de Made in China avec Chen Tong, aussi bien que comme des étapes clés du processus créateur qu'il décrit. Made in China représente en ce sens une manière de tombeau littéraire, un hommage aux disparus qui comptent, comme un éloge des frères en littérature. Ce livre chante les pères et les pères PAI, les pères avec l'accent grave, qui participent à la création, parce qu'ils l'informent de leur présence à travers la lorgnette de leur présence singulière. Et il la hante, cette création, au même titre que les possibles romanesques demeurant vivantes au sein de l'œuvre. Et c'est cette très longue citation qu'on aurait bien aimé citer intégralement, mais il aurait fallu au moins 3 minutes. « Chaque livre achevé est une somme de hasards infinitésimaux, etc., etc., etc. » Et nous allons conclure. L'œuvre de Toussaint lance-moi un défi à ses futurs biographes, quoi que l'on puisse imaginer le degré de complexité de la tâche à accomplir, qu'à la théorie et à l'histoire littéraire. L'auteur d'Autoportrait à l'étranger se conçoit résolument et rimbaldiennement en tant qu'autre, en tant qu'image mentale. Car qu'est-ce que penser si ce n'est à autre chose? Corollairement, le lecteur se construit une image de l'écrivain, de l'essayiste, du photographe, du metteur en scène, à l'aide des traces diverses laissées par celui-ci, en se demandant avec lui si écrire, c'est peut-être fermer les yeux en les gardant ouverts. Alors, en définitive, revenons à notre question initiale, au ton volontairement enfantin, provocateur et familier. Qui es-tu, monsieur Jean-Philippe Toussaint, toi qui n'uses de la troisième personne qu'à une seule reprise, dans ce deuxième roman qui offre au personnage éponyme une civilité pour nom? Toi qui dégaines le jeu, comme dans un jeu de massacre, le Scrabble remporté en 1973, sans doute, la partie d'échec du premier roman, la fléchette dans le front d'Edmondson, etc. Dis-tu jeu sans le penser, à l'instar de l'innommable imaginé par cette autre figure tutélaire qu'est Beckett, ou bien en pensant à autre chose comme il se doit, comme par exemple à toutes ces figures qui ont compté et qui ont disparu, autant de jeux qui s'incarnent à travers les projections de soi sur l'autre absent que l'on convoque pour l'incarner à nouveau. Les premières pages du roman à venir, nous ne citons pas, c'est là, on ne dira rien, semblent attester de la volonté d'anéantir, fût-ce seulement temporairement, l'être au monde, pour lui substituer le vertige de la boucle, du miroir et du vide. La présence comme diffraction des présents jusqu'à l'évanescence. Être soi, figure publique, aujourd'hui, c'est consentir à une disparition à travers l'étoilement d'une constellation de figures et de formes. Et nous vous remercions.
Comme je suis très fidèle au support papier, j'ai fait un exemplier à l'ancienne sur papier qui est donc en train de circuler avec les citations parce que je ne veux pas non plus dépasser le temps imparti. Alors, donc je vais vous parler de Jean-Philippe Toussaint, écrivain, coloriste, infinitésimal, avec un point d'interrogation. Alors j'aimerais préciser d'emblée d'où je parle. Depuis la peinture et la littérature des âges dits classiques, les peintres et théoriciens coloristes, vénitiens, mais surtout français du XVIIIe siècle, c'est Krout qu'évite soigneusement le narrateur de la télévision dans sa visite du musée de Dalheim. Et je parle donc depuis Diderot aussi, d'une certaine façon. Je ne suis pas vingtiémiste ni spécialiste de Jean-Philippe Toussaint. Et à titre de clin d'œil humoristique, donc au fur et à mesure, vous allez voir les citations hein, sur le papier que je vous donne, je mettrai volontiers en perspective deux citations, l'une de Diderot, dans le salon de 1761, où il dit « Cette pelouse est trop verte », et une de Jean-Philippe Toussaint, entre ses parenthèses, dans l'appareil photo, « Turquoise, doux seigneur de l'encre turquoise ». En ajoutant de suite néanmoins que pour les coloristes et Roger de Pile au premier chef, grand défenseur du primat du coloré à la fin du XVIIe siècle, la couleur est la condition même du visible, ce qui rend les objets sensibles à la vue, dit le théoricien coloriste. J'ajouterai aussi que le clair-obscur, art de l'intelligence des lumières et des ombres, en est la partie principale, et qu'une telle conception de la couleur et du travail du peintre coloriste n'est pas si éloignée des conceptions des grands peintres coloristes plus proches, Cézanne, Kandinsky, Klee, Mondrian, Rothko, pour lesquels la couleur est la condition même d'accès à un mode, à un monde, pardon, qui se dévoile, dont on a en quelque sorte déchiré l'enveloppe, car la couleur n'est en rien une couche qu'on étale, hein, bien sûr, sur les objets, mais bien ce qui permet de voir au-delà de la figuration des objets. Kandinsky parle ainsi de « vibration ». Merleau-Ponty, reprenant une remarque du journal de Paul Klee, écrit « Le retour à la couleur a le mérite d'amener un peu plus près du cœur des choses ». À partir de ces prémices, donc, je souhaite proposer une piste qui n'est vraiment que cela pour éclairer le travail et la poétique que j'appelle donc coloriste de Jean-Philippe Toussaint dans quelques-uns de ses romans. Pour gagner un peu de temps, je ne reviendrai pas sur la dimension profondément intermédiaire de sa pratique d'écrivain et d'artiste et sur l'intrication évidente des liens entre lecture et peinture notamment. Pourtant, on ne peut manquer de remarquer l'ambiguïté du traitement du personnel et du matériau picturaux dans ses fictions narratives, entre évitement, refus de juger des œuvres, dérision, déplacement du point de vue et abandon, le livre sur Titien dans la télévision. Force est alors de constater qu'en matière de couleurs, l'œuvre littéraire de Toussaint, riche en musées pourtant, est apparemment pauvre. Mon hypothèse néanmoins est que cette paradoxale absence-présence de la peinture coloriste de la couleur dans l'œuvre fictionnelle de l'auteur n'est pas thématique ni topique, qu'elle ne relève pas du discours justement, mais qu'elle signale une écriture profondément plastique et picturale. Cette poétique, il m'a paru intéressant donc de l'aborder par le biais de la couleur, qui me paraissait, mais je n'en suis pas sûre, avoir moins retenu la critique, souvent plus centrée, ce qui paraît logique, sur la présence d'une part des objets, matière, odeur, saveur, dans ses romans, ou sur la question de l'iconicité, de la fabrique et de la réflexion sur la fabrique des images. Ma question qui conduit donc mon hypothèse est simple. Jean-Philippe Toussaint est-il grand coloriste dans ses fictions narratives et que faut-il ou que faudrait-il entendre par là ? Je vais donc esquisser trois traits rapides de cette poétique coloriste, des traits qui ne sont pas dissertatoires, ce n'est pas trois parties de dissertation, mais qui sont plutôt juxtaposés que progressifs. Un premier point donc qui serait autour de décolorer, estomper. Je partirai peut-être du plus évident, de la première impression que donne, ou en tous les cas me donne à la lecture ces romans, celle d'un gommage des couleurs, ou plutôt de ce qu'en peinture on appelle une estompe. Cela commence par les références picturales, et d'abord la vénitienne, qui sont, sinon critiquées, du moins déplacées et contrariées. La plus claire est sans doute celle de Titien, vénitien, grand coloriste, dans la télévision. Non seulement l'essai sur Titien est abandonné, mais les longues enquêtes et réflexions du personnage en résidence à Berlin pour l'écrire ne portent presque jamais sur le coloris. Dans le passage décisif de la rencontre imaginée à partir de Musset entre Titien et Charles Quint, l'amorce d'un discours sur le blanc, point nodal des débats coloristes, est évincée au profit d'une réflexion sur le geste, le pinceau qui tombe. De même, la figure de Titien est finalement occultée par celle d'un épigone, Christophe Amberger, et la toile du peintre par l'écran des moniteurs vidéo des gardiens du musée. La salle de bain, auparavant, avait assez bien inauguré, à sa manière désinvolte et drôle, cet angle particulier à partir duquel un discours coloriste ou anticoloriste s'élaborerait. Deux épisodes sont directement concernés, celui du séjour à Venise et celui du peintre polonais Kabrowinski. L'école vénitienne, essentiellement coloriste, est évoquée à travers la mention de deux peintres, Sebastiano del Piombo et Véronèse. À chaque fois, le discours attendu est immédiatement désamorcé par la mise en perspective concrète du lieu à partir duquel celui-ci pourrait se tenir, lieu qui l'invalide avec drôlerie, juste minuscule citation. Sans cesser de se masser les pieds, elle me demanda ce que je pensais de l'œuvre de ce Sebastiano del Piombo. C'était difficile à dire. La figure de Kabrowinski, artiste polonais exposé donc dans la galerie d'art où travaille Edmondson, la compagne du narrateur, est beaucoup plus complexe et stimulante. Rappelons que dans la tradition anticoloriste depuis l'Antiquité, la couleur relève de la pratique de l'artisan, de la main, plutôt que de celle de l'artiste. Or, précisément, du travail artistique de Kabrowinski, nous ne saurons rien. Mais nous saurons beaucoup, par contre, de son travail d'artisan. Il est ainsi engagé pour repeindre la cuisine et aussi pour préparer les poulpes. La cuisine devient alors le lieu ironique et éminemment réflexif du travail du coloriste. S'y entrelacent des commentaires contradictoires sur la couleur naturelle, exposée brute dans les pots de peinture, qui est jugée orange par Kabrowinski, mais beige vif par Emonson, et aussi des remarques décousues et plates du même Kabrowinski sur quelques peintres, dont Raphaël. Ce n'était pas mal, Raphaël. Et Van Gogh, il avait de l'estime pour Van Gogh. Il prend place surtout la longue scène de la préparation des poulpes, dont la chair écorchée et gluante évoque la grande raie dépouillée de Chardin, louée pour ses fameux Chardin, talent de coloriste, à la fois par Diderot et Proust. La scène culmine avec la mention du fameux pigment du mollusque qui consacre le talent coloriste de Kabrowinski. Il avait trempé son doigt dans l'encre et expliquait ce que c'était avec l'encre des sèches qu'était faite la sépia. Dans sa jeunesse, il avait peint de très beaux lavis. Plus que pour la teinte elle-même, brunâtre, la mention vaut, je crois, pour l'idée de dilution, le délavé de la couleur obtenue, ses variations monochromatiques. Souvent, l'univers chromatique des fictions toussaintiennes se caractérise par des grisailles et des lavis, tout un monde de gris, de beige, de grège. Parmi d'innombrables exemples, on peut citer dans l'appareil photo, par exemple, la longue déambulation des personnages dans la grisaille d'une zone industrielle, ou des détails qui font saillie, les sièges rembourrés, le mobilier de cantine en formica beige, du ferry entre New Haven et Dieppe. Les bagages de Marie, une grande valise gris perlé, un petit trolley blanc grège, des sacs crème en papier glacé, etc. Et aussi, prépondérant, le bleu, mais surtout le bleu pâle, le bleuté, Rappelons que la grisaille, au sens pictural du terme, est un traitement monochrome qui peut aussi prendre pour base le bleu. Affiche bleu pâle, ici et là, décolorée et datée, a-t-on dans l'appareil photo. Extase infinitésimale, reviendrai sur le terme, face au ciel bleuté, et là je vous ai mis la citation. Ce qui inaugure donc, en termes de poétique coloriste, la salle de bain, ce n'est pas tant un effacement de la référence et de l'intérêt porté à la couleur qu'un déplacement. La couleur ne vaut pas comme discours, ne vaut pas même comme teinte, comme chrome, mais comme disposition, au sens où le narrateur de Nu parle de la disposition océanique de Marie, une sensibilité, une vibration particulière. Ma deuxième piste, que j'ai intitulée « Code couleur » et « Dress code ». Les notations de couleurs chez Jean-Philippe Toussaint me semblent participer d'un mode de présentation du monde, d'apparaître du monde par l'écriture, comme ensemble de signes qui sont posés là, des objets qui demandent à être déchiffrés ou maniés. En ce sens, ils ne relèvent pas d'un choix, ils se contentent de signaler et non de signifier. Ce sont des signes de reconnaissance. Ainsi en est-il de tous les blasons, logos, enseignes, signalétiques très nombreux qui traversent les romans. Le logo jaune de la Shell jaune, les autocollants jaune-orangé de la Lufthansa, les signaux rouges des balises aériennes, les lunettes de soie lila de la Japan Airlines, les cônes de stationnement orange, bon, il y en a une liste infinie, hein. Mais aussi, ça c'est que je l'aime bien, les rouleaux de pellicule photo de l'Ilford FP4, noir et bleu, et ceux de l'Ilford FP5, noir et vert, comme quoi le régime des images répond aux mêmes normes de codage que le reste du monde. L'école et le manuel de conduite dans l'appareil photo, ce fameux code qu'il faut apprendre, servent alors de modèle spéculaire à l'univers de signes dans lequel nous évoluons. La conduite se réduit ainsi à l'apprentissage via de petites voitures stylisées, des codes couleurs. Me fallait pas 10 secondes. 1. La rouge. 2. La bleue. C'est un exemple. 1. La jaune. 2. La bleue. 3. La verte. Etc. Dans l'exemplier, je vous ai mis la citation entière. Le lexique habilement polysémique utilisé par l'écrivain permet la mise à distance ironique de ce monde de figuration du monde. Je cite « Me familiarisant bien vite aux principales difficultés recensées, j'avais fini par prendre la mesure de situations les plus complexes susceptibles de se présenter. » Ce qui, bien entendu, s'entend au propre, à prendre la conduite, comme au figuré. Devenu simple signal, la couleur disparaît alors et n'est qu'à peine perçue sans doute par le lecteur. En témoignent toutes ces épithètes attendues, figées, à la limite de la lexicalisation et de la catacrèse. L'émail blanc, le piment rouge, le sky noir, le corbillard noir, les plantes vertes, l'alcool blanc, la bouteille de rouge, le bleu de travail, etc. Les couleurs des vêtements, de la même façon, sont d'abord marquées par un dress code. Dans le prolongement des logos et de la signalétique, une large part est faite aux uniformes et aux livrées, qu'on pense dans La vérité sur Marie aux couleurs de l'écurie de Ganet, casaque jaune, toque verte, ou d'en faire l'amour à celle des uniformes des collégiens japonais. Dans ce monde d'employés et d'employés d'hôtel, notamment, que constitue l'univers toussaintien, les couleurs se répètent avec d'infinies variations. Jeune femme en jupe grise et chemisier très blanc, employée en livret noir ou en combinaison de travail grise, portier en habit d'apparat redingote et gilet gris, Une nouvelle fois, l'adjectif de couleur n'a pratiquement aucune fonction de caractérisation. Il n'apporte aucune nuance, aucune qualité supplémentaire. Et non seulement il n'apporte rien, mais il se répète, il bégaye, il exhibe son insignifiance. Dans La vérité sur Marie, apparaissent 4 employés de l'écurie de Ganet, 4 japonais, je cite, identiquement vêtus de blazer bleu marine à écusson du club ou de cercle. La caractérisation est presque immédiatement reprise, dans la page qui suit, et modifiée en japonais en blazer bleu marine à écusson, qui devient pratiquement une expression lexicalisée ensuite, on pourrait dire avec des tirets, en blazer bleu marine à écusson. Par ailleurs, quand il ne s'agit plus d'uniforme à proprement parler, force est de constater que les personnages de Jean-Philippe Toussaint adoptent aussi des tenues uniformisées et rendues encore plus insignifiantes, au premier abord bien sûr, qu'elles se déclinent dans des teintes soit achromatiques, blanc, noir, gris, soit de la vie, comme évoqué plus tôt, des peintes pâles, beige, bleu pâle, ou indéfinies instables, toute la gamme des beigeâtres, jaunâtres, brunâtres, bruns, rouge, acajou, olivâtres, puisqu'on a parlé des olives, grisâtres. Et bien sûr, on ne saurait dénombrer le nombre de chemises blanches, sans parler des t-shirts blancs de Marie, ou de manteaux, vestes, pantalons noirs ou sombres, jusqu'aux chaussettes blanches ou noires. Mais avec le cycle de Marie, le dress code, qui prend logiquement de l'ampleur et du lustre, se met à engager un véritable imaginaire plastique. Marie imagine ainsi une collection hippisme, élaborée à partir des tenues bigarrées, des jockeys, et également à partir d'une analogie rêveuse entre les robes de chevaux et des femmes. Ainsi, le dress code ne signale pas seulement un monde de convention, ou même simplement un monde extérieur. Les couleurs n'y sont plus seulement des signes, mais bien des symboles. Bien qu'elles semblent proches de la fixité des couleurs blason, elles sont beaucoup plus instables, difficiles à définir et à approcher. Elles donnent lieu à descriptions et commentaires et entretiennent des liens complexes avec les autres éléments romanesques. Elles contribuent ainsi à la formation de grandes figures archétypales, noires et blanches. Marie, son grand manteau en cuir, sa jupe, ses bottes, ses lunettes de soleil, le tout noir. Jean-Christophe de G, Jean-Baptiste de Ganet si on préfère, et son manteau de cachemire noir, ou sa veste en lin noir, mais surtout ses chaussettes. Après son accident, devenu un simple corps allongé sur un brancard, déshumanisé, il, vous avez la citation, semblait tout entier réduit à ses chaussettes, devenu son blason et ses couleurs, noires, fines, fragiles, en fil d'Écosse, dont je peux encore aujourd'hui estimer mentalement la texture et l'éclat, la pâleur de leur noir. Ou encore Maurizio, le gardien de la maison familiale de Marie, hein, sur l'île d'Elbe, et sa chemise bleu pâle à petits carreaux blancs, bleus et blancs. Il faut faire alors un point rapide, très rapide, sur les couleurs de Marie. Là où l'on attendrait une profusion de couleurs, et alors même que ses propres tenues ou les robes merveilleuses de ses collections, robes en sorbet, en miel, sont minutieusement décrites, la couleur, même très présente, comme pour la robe en sorbet blanc, d'enfuir, y tient surtout une fonction symbolique. On connaît les formes, les textures, mais en fait assez peu les couleurs. Ou alors ce sont des couleurs qui désignent d'abord une chose, pêche, melon, orage. Je vous laisse libre d'interpréter mes lapsus. À vrai dire, ce ne sont ni des couleurs ni des robes, des idées de robes seulement. La robe en miel suggère certes une gamme de jaune, ambre, doré, mais le nom de couleur est justement évité. Dans le texte, je ne parle pas du court-métrage, au profit de suggestions gustatives, olfactives, tactiles, voire auditives, avec l'essaim d'abeilles bourdonnantes et la musique cadencée. Surtout, c'est une robe abstraite, sans attache, en lévitation, hein, ce sont les mots du texte. De même, lors de la soirée d'inauguration de l'exposition de Marie dans Nu, la fausse Marie, dont on a parlé tout à l'heure, apparaît à Jean-Christophe en robe bleu électrique. Mais justement, c'est la fausse. La vraie Marie porte un chemisier blanc à col Lavalière. Par ailleurs, dans Faire l'amour, lorsque Marie erre dans Tokyo, vêtue d'une robe de collection à 20 000 dollars, celle-ci est toute simple, le dos nu et noir. Puis la robe s'anime des reflets de la ville et devient quelques pages plus loin une robe de soie bleu nuit étoilée dans la nuée enneigée, tandis que le visage de Marie est baigné, je cite, par les lueurs fauves d'une lanterne toute proche. La robe reste ainsi, dans toute la suite de l'histoire, la robe en soie bleu nuit étoilée. Et c'est en définitive, c'est ma troisième et dernière partie, sur cet art des reflets du clair-obscur que je finirai donc mon esquisse du travail d'écrivain coloriste de Jean-Philippe Toussaint. Seules les lumières de la nuit permettent de colorer le visage et la robe de Marie. D'où le dernier point sur halo et luminescence. On a pu dire, et cela s'impose dès la première lecture, que l'univers toussaintien était un univers nocturne, que ses personnages aimaient le silence et l'obscurité, pas le contredire. Ce qu'on a souvent, à juste titre, rapproché de son travail et de sa réflexion de photographe et de cinéaste. Je serai plus attentive, pour ma part, au travail pictural sur la lumière et aux paysages zébrés de toutes sortes de fluorescence. En effet, l'obscurité et les notations de couleurs chez Toussaint surgissent presque toujours à partir de sources lumineuses, extrêmement variées et contemporaines, à tel point que se crée sous nos yeux tout un langage plastique nouveau, architecturé, fait de halos, d'éclairages, de néons, de miroitements, de reflets, de scintillements. Qu'on retrouve d'ailleurs, évidemment, dans son travail de plasticien, et là, on peut penser à la robe de miel du court-métrage, qui, à la différence de celle du roman, en est à ce titre une bonne illustration avec les cercles fluorescents qui donnent, là, pour le coup, de la lumière. En ce sens, de nombreuses couleurs codées fonctionnent aussi comme des sources de lumière. Les sigles verts fluorescents des issues de secours, les veilleuses éparses aux reflets blanchâtres, les enseignes bleutées, Et c'est sans doute dans les descriptions des villes de nuit et de Tokyo, en tout premier lieu, que le travail sur le clair-obscur est le plus spectaculaire. Tokyo surgit ainsi, tel... Est-ce que j'ai le temps de lire les citations ? Oui. J'en ai que deux, hein, mais qui sont belles. Donc, Tokyo surgit, telle une ville endormie au cœur de l'univers, parsemée de lumières mystérieuses, néons et réverbères, anciennes, éclairage des rues et des artères, des ponts, des voies ferrées, autoroutes métropolitaines et réseaux d'avenues surélevées enchevêtrées, miroitements de pierreries et bracelets de lumières piquetées, guirlandes et lignes brisées de points lumineux dorés, souvent minuscules, stables ou scintillants, proches et lointains, signaux rouges des balises aériennes qui clignotaient dans la nuit, au sommet des antennes et aux angles des toits. L'exemple le plus décisif, néanmoins, à cet égard, est celui, me semble-t-il, où se confondent par le travail sur la lumière, paysages urbains et portraits. C'est la deuxième citation un petit peu plus longue que vous avez. En contrebas, à quelques mètres de la fenêtre, apparaissait l'ombre d'un toit plat, en terrasse, recouvert de hautes rampes de néons verticaux qui clignotaient imperturbablement dans la nuit comme des balises aériennes avec des reflets intermittents et dilatés, rougeoyants, noirs et mauves, qui pénétraient dans la chambre et recouvraient les murs d'un halo de clarté rouge indécise qui faisait briller sur le visage de Marie de pures larmes infrarouges, translucides et abstraites. C'est évidemment le reflet et les larmes infrarouges qui sont ce point de fusion de paysages urbains et portraits. D'ailleurs, même discret, l'usage d'un adjectif de couleur rare, versicolore, couleur changeante, me paraît révélateur de cette conception non pas multicolore, justement, chromée de la couleur, mais moirée, instable. Nous passions, je donne le passage qui est vraiment très court, nous passions d'une voie de l'autoroute à l'autre et j'apercevais des miroitements de lumière à l'horizon, des petites touches de clarté versicolore qui scintillaient dans la nuit. Le travail sur la couleur est alors un travail de contraste mené dans la tradition des peintres coloristes. Je cite, une petite lampe était allumée dans le bureau, c'est dans l'appareil photo, était allumée sur le bureau et nous étions comme isolés dans l'îlot de lumière verte de l'abat-jour. Les armoires du rangement ressortaient à peine de la pénombre. Il y avait quelques sièges vides dans l'obscurité. Le comble de l'art du coloriste, Jean-Philippe Toussaint, n'est ainsi pas de faire du blanc avec du doré, ce qu'envisage Titien avant de faire tomber son pinceau, mais plutôt de faire du noir avec du noir, de faire disparaître le noir dans le noir pour mieux faire apparaître en creux une absence, l'ombre d'une présence. On l'a déjà vu à propos des chaussettes sur le cadavre de Jean-Christophe Degé. Le noir est multiple, du plus pâle, celui des chaussettes du mort, au plus saturé et lumineux, celui du pur sang Zahir, au pelage noir luisant qui se perd précisément dans la nuit, noir sur noir, pointant par là l'horizon limite du travail du peintre, faire disparaître le visible sur la toile pour mieux en révéler la part invisible, d'où la référence exhibée à la nouvelle de Borges, le Zahir, ou le visible, ce qui ne peut être oublié. Et bien sûr, on repense alors à l'épisode central de l'appareil photo où le narrateur donne à développer la pellicule volée où s'opposent deux régimes de couleurs, celle saturée, criarde, des photos du couple et du chemisier rose, que portait la jeune femme, et celle sous-exposée du personnage narrateur au surnage, je cite, « ça et là quelques ombres informes comme d'imperceptibles traces de mon absence ». Ainsi, les couleurs criardes montrent sans faire voir, tandis que les ombres informes révèlent. Comme le suggère l'auteur lui-même dans l'extrait de « La main et le regard » mis en exergue par la poêle à communication, qu'on vient de rappeler, « il faut fermer les yeux en les gardant ouverts pour écrire, il faut aussi, dans la télévision, les fermer pour voir enfin surgir la toile, le portrait de Charles Quint par Amberger, qu'aucun visible ne peut montrer ». Et de la même façon, la trace matérielle du tableau d'Amberger dévoile, in fine, le visage du héros narrateur. Pour finir, j'amènerai deux ultimes références piochées dans l'œuvre de fiction de Jean-Philippe Toussaint. Je suis surtout une lectrice. Mondrian d'abord, qui, dès la salle de bain, surgit avec la réminiscence d'un dessert de dame blanche nappée de chocolat et qui me semble bien caractériser un travail à la fois de contraste et d'équilibre infinitésimal, pour reprendre l'expression même que l'écrivain utilise pour qualifier son propre travail, croisant, imbriquant les deux infinis, le petit et le grand. avec l'évocation de Mondrian, la couleur est d'emblée évidemment associée à une jouissance d'ordre métaphysique. Rothko, enfin, le narrateur de l'appareil photo, enfermé dans la pénombre de la cabine de photomaton, se remémore le faisceau de lumière d'un projecteur de la gare maritime. Je cite « cet espace très précis que délimite la lumière, clos et pourtant aussi dénué de frontières matérielles que le tremblé ouvert d'un contour de Rothko ». Ce que la référence indique cette fois-ci, c'est l'importance dans la couleur du mouvement, lui aussi infinitésimal, celui du tremblé. Et dans le petit exemplier que je vous ai mis, j'ai indiqué aussi une citation où on avait, il y a l'usage assez récurrent du tremblant tremblé pour la lumière. C'est la citation 21 où je suis allée rechercher hier soir, du coup, après avoir vu qu'on pouvait avoir certains brouillons que je n'avais pas vus sur le site. Et il y a donc une version, la version antérieure, c'est tremblotant. Et moi, je trouve ça assez intéressant que ce soit tremblé, tremblant, et pas tremblotant, parce que précisément, ça rejoint plutôt le travail vraiment de peinture. J'espère donc vous avoir convaincu qu'il y a bien décidément une poétique et une métaphysique de la couleur chez Jean-Philippe Toussaint. Je vous remercie.